commence. Parce que... Alors, je voudrais juste d'abord situer le cadre dans lequel se situe cette première rencontre. Première rencontre du PEN français sur les thèmes d'immigration. Voilà. On intervient ici au titre du comité de la paix du PEN international. Le PEN international. Ah, moi je vous vois pas, donc je me mets ici. Voilà. Le PEN international a un comité de la paix. Comité de la paix qui s'est donné quelques objectifs stratégiques, dont l'un était. Dans l'un était précisément l'immigration. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupait nous déjà avant ces orientations stratégiques. On s'en est donc emparé avec notre point de vue à nous qui n'est pas exactement celui de PEN international. Et les divergences entre nous montrent que c'est un sujet qui appelle le débat.
Vous nous entendez, Fatoumata ?
Alors, on n'entend rien.
Vous nous entendez ou pas ? Ok. Donc, c'est une question d'orientation. Il y a une introduction. Il faut vraiment beaucoup projeter la voix pour qu'elle entende. Et elle aussi. Si vous tournez, ça sera...
Attends, il y a peut-être un problème de son.
Ah oui,
Elle a dit que c'est bon.
Oui, il y a 100%.
Elle entend.
Il faudrait qu'elle entende. Ça,
le son est à 100.
Ok.
Je ne comprends pas comment elle...
On vous écoute, Philippe. Non, oui. Non, c'est bon.
Oui. Donc voilà. J'avais noté, par exemple, que le comité de... Le document d'orientation stratégique du comité de la paix internationale écrivait, voilà, je les cite, hein, « Les écrivains peuvent être très utiles aux migrants. Nous pouvons défendre leurs droits et veiller à ce qu'ils puissent conserver leurs traditions et leur langue et s'exprimer librement dans le respect des règles nationales et internationales qui régissent la présence des migrants dans les pays d'accueil. C'est déjà dire à quel point il y a des divergences de point de vue possibles sur une question aussi importante que celle-là et que donc ça mérite vraiment le débat. Ça mérite le débat. Et voilà, c'est bon.
C'est bon, ça y est.
Voilà, c'est bon. Et donc, nous avons... Voilà, donc nous avons donc décidé, nous, très orgueilleusement, ambitieusement, d'engager une réflexion sur ce thème-là. Donc cette rencontre de ce soir est une première rencontre qui pourrait être suivie d'autres, parce qu'on a vraiment l'intention et l'ambition d'engager toute une série de réflexions sur ce que nous pouvons faire, sur ce que peuvent faire des écrivains devant un sujet aussi important que celui-là. Je rappelle que nous sommes à 15 jours d'une élection européenne, que cette élection, dans les sondages, ce que disent les électeurs français, attendre de l'Europe, c'est que d'abord, elle règle la question de l'immigration, les projections sont un bon tiers des voix pour l'extrême droite, et que par conséquent, nous avons la responsabilité de ne pas rester indifférent à cette situation. Voilà pourquoi il me semble qu'il est important qu'on engage un débat là-dessus et une réflexion. Voilà. Alors, je ne vais pas... Cécile Allégra doit nous quitter dans une heure, donc je ne vais pas prolonger ce que je veux dire, parce que je voulais simplement situer l'axe dans lequel nous situons et l'ambition qui était la nôtre. Je vais donc simplement, avant de leur céder la parole, présenter nos amis qui ont bien voulu participer à cette première réflexion. Cécile Allégra, je tenais beaucoup à ce qu'elle soit là. J'y tenais beaucoup parce que j'étais, profondément marqué par, par son film sur le chant des vivants, qui est, je crois, un très bel exemple, un très très bel exemple de ce qu'on peut faire de beau et d'efficace sur ce sujet. C'est-à-dire, Cécile nous en parlera, le fait de suivre des gens qui ont difficulté, qui essaient de trouver un moyen. Et...
Attention, euphémisme, bon. On en parlera. En difficulté, c'est un euphémisme.
Oui, c'était un bel euphémisme, oui. Mm-hmm. Et c'est simplement pour une présentation rapide, parce que je vous laisserai en parler. Parce que
bien sûr.
Enfin bon, je voulais simplement dire pourquoi vous étiez là.
Merci.
C'est parce que ce film m'a beaucoup marqué. Et que je trouve que vous avez fait cette très belle manière d'illustrer le sujet, et que vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Voilà. Fatimata Diallo-Ba, qui est à Dakar, qui vous entend, j'espère. Fatimata. Fatimata. Non. Fatimata ne nous entend pas.
Vous nous entendez ?
Fatimata, est-ce que vous entendez ?
Bonjour. Vous nous entendez là ? Un peu mieux ?
Pourquoi pose qu'on n'entend pas
le speaker? Parce qu'il faut projeter la voix vers le micro.
Speaker. Vous entendez.
Vous nous entendez, super.
Et lorsque quelqu'un d'autre parle, je ne l'entends pas.
Voilà, d'accord. C'est ça.
Bon, très bien. Voilà.
Donc,
Fatima...
Je n'ai pas entendu, je ne sais pas s'il y a eu une partie introductive.
Oui, il y en a eu une.
D'accord, bon, mais très rapide.
Je n'ai pas entendu.
Voilà, non, c'est pas. Alors, Fatimata Diallo-Ba, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'intervenir depuis Dakar.
Et on vous dirait quand ce sera mon tour.
Bien sûr, on vous dit.
Voilà, juste une présentation. Je présente. Elle a passé son enfance et son adolescence à Dakar, et puis elle est venue en France, où là, elle a étudié les lettres classiques. Elle a enseigné longtemps en France, avant de retourner à Dakar. Elle est maintenant au lycée Jean Mermoz à Dakar, où elle enseigne les lettres classiques avec, si on en croit ce qu'on en dit, une grande ferveur de ses élèves. Donc voilà, et puis elle a écrit, elle est romancière, elle a écrit notamment deux romans.
On parle de votre parcours.
Oui, on parle de votre parcours. Hein. Oui.
En fait, elle ne vous entend pas parce que vous êtes sur le côté, mais ce n'est pas grave.
Oui.
Il est où son oui. Quasiment.
Voilà.
Bon.
Donc,
voilà.
Bon, ben, je vous...
Non, c'est bon.
Bah, c'est
plat.
Bon.
Voilà.
Oui, bah oui, c'est compliqué. Oui.
Oui. Il voilà. Faut projeter complètement dans le micro là-bas.
Ah, oui, évidemment, le micro est de l'autre côté. Évidemment. Voilà, oui. Bon.
Voilà.
Et donc, deux romans dont le dernier a été largement primé. Et les deux romans, c'est une suite d'itinéraires aussi, c'est une sorte de voyage entre l'Afrique et la France. Et voilà, et donc Fatimata Diallo-Ba a beaucoup de choses à nous dire aussi. On la laissera parler bientôt. Et puis, Steve Oudifrin-Mungangi, qu'on a rencontré ici il y a quelques mois, un homme qui est romancier, poète et essayiste, qui est un poète qui nous a beaucoup touché ici, un poète de grande qualité, est en train, m'a-t-il dit, de travailler un livre sur la migration dans la philosophie africaine. Voilà.
Super.
Et voilà, Steve il vient du Gabon et maintenant en France. Et après un itinéraire qui est un itinéraire volontaire, choisi, assumé et rêvé avant de venir. Voilà. Et rêvé par la littérature.
Il a du mérite parce qu'il vit dans des conditions.
Rêvé par la littérature.
Assez précaires et.
Voilà.
Qui doivent être renouvelés.
Voilà. Et puis enfin, Malik Gara, qui est aussi un de nos vice-présidents, un des piliers du B-Club français depuis de nombreuses années, et qui est auteur de nombreux ouvrages aussi, et dont le dernier a été consacré à Jules Verne. Voilà. Cécile Allégra va nous quitter à 7h30. Donc voilà. Donc je vais lui laisser la parole. Voilà, la question est bien celle-là. Notre question aujourd'hui, c'est dire les migrations.
D'accord.
Voilà. Il faut tourner le micro.
Je vais surtout projeter pour faire ton
voilà.
Bon, bah, déjà, je vous remercie tous de cette invitation. Et je suis très heureuse d'être assise à la table de personnes qui essayent de, d'écrire sur des faits aussi contemporains, pour ce qui concerne Steve, je pense. Je vais écouter. Je ne sais pas qui d'entre vous a vu le film, mais c'est un film qui s'appelle Le Chant des Vivants, donc, et qui a été tourné pendant un an. Ça raconte un an d'ateliers qui sont des ateliers d'écriture de chansons qui ont été réalisés avec des jeunes survivants de camps de torture. Je précise, et c'est justement l'objet, je pense, du débat ce soir, que aujourd'hui, je refuse le terme de migrant parce qu'il ne contient absolument pas la souffrance ni l'histoire de ce qu'il se passe en Afrique et donc avec d'autres personnes, parce que je suis réalisatrice et militante des droits de l'homme à travers une association qui s'appelle Limbo et qui travaille avec des jeunes qui ont survécu et qui est montrée dans ce film-là. En gros, j'ai filmé nos activités avec les personnes qu'on suivait. Je précise donc que je suis venue vous voir parce que pour nous, les mots sont très très importants, sont fondamentaux, puisque en ce moment, il y a une réécriture de l'histoire qui est basée sur une utilisation dévoyée de certains termes. Et donc, il faut revoir la sémantique, le champ sémantique de ce qui est vulgairement appelé la migration et qui aujourd'hui ne peut plus, à mon sens, être appelé de la sorte, vu les exactions qui se pratiquent. Sur ce qu'on appelle le chemin de l'exil, donc une série d'euphémismes, c'est très intéressant pour nous qui pratiquons les mots, de voir à quel point, et c'est très intéressant pour moi aussi, parce qu'il a fallu pour moi, et je continue à le faire, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est en train d'écrire une pièce de théâtre en théâtre de l'opprimé, donc en gros, en donnant les moyens aux jeunes de réfléchir aux mots qu'ils veulent utiliser. Donc je fabrique juste le cadre et ensuite on chemine ensemble vers l'écriture de la pièce, une pièce qui s'appellera La Route. Donc je reviens au film. Le film était un film qui se voulait, comme peut-être certains d'entre vous le savent, donc c'est le troisième volet d'une trilogie. Le premier film s'appelait Voyage en Barbarie. Et donc en 2013-2014, je m'étais rendue avec une camarade dans le Sinaï où il existait les premières maisons de torture pour ce qu'on appelait les migrants. Et en allant sur place, déjà à l'époque, donc 2012-2013, je me rends compte que ce n'est pas une migration puisque les jeunes sont capturés dès qu'ils franchissent la frontière. À l'époque, c'était surtout des jeunes érythréens qui fuyaient donc la dictature d'Isaias Afewerki et qui, dès qu'ils rentraient dans le territoire soudanais, étaient attrapés par des Rachaïda, donc une tribu nomade du delta du Nil, qui allait les mettre dans des 4x4 et puis les déportait mystérieusement vers cette partie du Sinaï qui est frontalière avec Gaza. Donc après la capitale à Larish, bien après, donc très loin dans le désert, où il y avait des maisons de torture et où les gens étaient torturés contre rançon. Donc à l'époque, c'était très peu connu. Et donc on continuait à parler de migrants maltraités, de trafiquants cruels, etc., etc. Or, dès cette époque-là, l'aspect systémique de ces tortures a été établi, et donc on l'a établi avec un certain nombre de camarades militants des droits de l'homme, l'aspect systémique. Et puis petit à petit, ce qui est apparu, et ce qu'on continue à essayer de mettre à jour à travers la parole, puis je vous reviendrai au film, c'est que pour moi, le terme de déportation est beaucoup plus idoine aujourd'hui que le terme de migration, puisque le geste initial peut être assimilé à de la migration, c'est-à-dire la volonté de sortir. Mais à partir du moment, aussi bien pour l'Est que pour l'Ouest, où on sort, on est pris dans un engrenage, on va être kidnappé dans l'Est, on va monter volontairement dans des bus, mais à travers des rabatteurs qui prennent soin de vous emmener dans un endroit où, en fait, à partir du moment où vous payez votre passage sur un bus, vous n'allez jamais pouvoir revenir. Donc, la route de retour n'étant pas possible, d'aucune façon. Je veux dire, moi, mon arrière-grand-père, il a pris un bateau pour aller à New York. Il était italien. Au pire du pire, il pouvait prendre un bateau pour rentrer. Là, ce n'est pas possible. Donc, le deuxième élément qui me fait parler de déportation aujourd'hui, c'est que on parle beaucoup des naufrages en Méditerranée. C'est quelque chose qui commence, heureusement pour nous, à avoir un écho, même si les organisations qui s'en occupent font face à des très grandes entreprises de diffamation et qui sont terribles. Alors qu'elles prennent quand même des risques très importants et elles se font tirer dessus quand elles font des opérations de sauvetage en mer. Mais ce qui n'est absolument pas connu, c'est la condition de traversée du désert et les achats de personnes qui s'opèrent à la fois sur le territoire malien et sur le territoire égyptien ou soudanais. Et c'est vraiment il y a des points d'orgue comme Assouan qui sont des centrales d'achat où les nationalités sont triées et un prix leur est donné, et les personnes qui détiennent les gens en Libye, je dis bien les personnes parce que toujours avec d'autres camarades qui dont une partie font partie de Radio Irena, on liste les trafiquants libyens depuis 10-12 ans, et c'est toutes les nationalités confondues, hein. Il y a des Tchadiens, il y a des Soudanais, il y a des Érythréens, il y a des Éthiopiens qui sont des chefs trafiquants et qui vont passer commande. Alors, ce n'est pas toutes les mêmes échelles de camps. Il y a des petits camps, il y a des très grands camps, il y a des gens très puissants, il y en a qui sont moins puissants. Il y a des typologies aussi, et ça, c'est très dur à expliquer, mais c'est-à-dire que vous avez un premier marché de la personne en bonne santé, un deuxième et un troisième, qui est un mouroir. Et là, on parle de la jeunesse africaine dans son ensemble, puisque aujourd'hui, maintenant, ça ne concerne plus que les Érythréens et donc la Corne de l'Afrique et l'Est de l'Afrique. La Libye est un entonnoir et c'est un vaste camp de concentration. Et je parle de camp de concentration. Je pense que les premiers à m'avoir invité en débat, c'était l'école d'historiographie d'Auschwitz, qui reconnaissait totalement l'aspect concentrationnaire de ce phénomène. Et on manque aujourd'hui, en fait, de quelque chose, et je sais que ça va me ramener au film, excusez-moi pour cette longue dissertation. Ce qui manque aujourd'hui aux survivants, puisque je propose qu'on les appelle plus que comme ça, à partir du moment, quelle que soit la raison du départ, à partir du moment où un jeune passe par, et moins jeune, passe par la Libye, il a été torturé en moyenne 6-7 mois, enfin, les plus chanceux c'est 4 mois, pour un prix à payer, donc une rançon pour être maintenu en vie, qui varie selon les nationalités de 7 à 15 000 euros. Et ça, on ne parle que de la Libye, ça ne comporte pas ni le prix du voyage, n'est-ce pas, que donc je vous propose d'appeler déportation, ni le prix de la libération, qui n'en est pas une, puisqu'on monte sur un bateau qui a un autre prix. Donc aujourd'hui, ce qu'il manque aux survivants, qui se comptent par centaines de milliers, c'est à la fois c'est une parole unifiée, puisque contrairement par exemple aux Syriens, qui ont la même langue et qui donc peuvent se désigner comme survivants de la torture et désigner un bourreau, les jeunes qui proviennent de tous les pays d'Afrique ne peuvent pas communiquer entre eux. Ça a été un grand obstacle à l'émergence de ce crime contre l'humanité, je pense à nul autre pareil depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et vraiment je pèse mes mots en termes de chiffres. Simplement, le désert efface bien plus vite les traces que le sol de la Pologne. Bien sûr, on parle d'un crime contre l'humanité, non pas d'un génocide, hein, puisque un génocide, il doit y avoir une intention génocidaire, et là, c'est un crime épouvantablement économique. C'est pour extorquer de l'argent. Et donc, c'est un crime contre l'humanité. Donc, il manque un langage commun. Et donc, je reviens au film. Le film a été pensé pour cela, puisque après avoir été dans le Sinaï, après avoir été en Libye, je me suis rendu compte, et puis après avoir fait cette petite ONG qui s'appelle Limbo, qui est justement en référence aux limbes dans lesquels se trouvent les survivants, qui sont ni morts ni vivants, comme vous savez, puisque vous avez sans doute tous lu Robert Antelme. On n'arrive pas à être complètement... survivre ne veut pas dire être capable de vivre, donc on est vraiment dans des limbes où on ne sait pas, on sait si l'autre a un peu vécu les mêmes choses, si c'est un frère de détention, mais on ne connaît pas la masse. Et donc dans le film, il y a notamment un jeune Guinéen qui ne parle de la Libye qu'en termes d'euphémisme. C'est pour ça que les euphémismes, pour moi, sont très dangereux. Il dit c'était un petit peu compliqué, il n'était pas très gentil, le trafiquant. On a eu un petit peu des problèmes. Et on parle de quelqu'un qui a été tellement torturé qu'il a passé un an muet dans un hôpital psychiatrique en Italie avant de pouvoir trouver le chemin des mots. Et même quand on était en train de filmer et on essayait de trouver une chanson, donc on a fait une chanson sur les euphémismes qui dit « La Libye, c'est lui qui l'a écrit, c'était merveilleux ça » parce que ce qui était beau dans le film, c'était de voir la rapidité d'assimilation, en tout cas pour les francophones, d'une proposition d'écriture. Donc la première fois qu'il a parlé, il a parlé de comment il est sorti de son pays. Et la seconde fois, il m'a dit « je veux parler de la Libye ». Puis je me suis présentée à lui et le jour où je me suis présentée, il a dit « je ne peux pas en parler ». Et j'ai dit « pourquoi tu ne peux pas en parler alors que tu m'as demandé d'en parler ?» Et il a dit « parce que la Libye, c'était un petit peu difficile ». Et tout un tas de phrases. Et là j'ai dit « écoute, est-ce que tu voudrais faire une chanson sur les euphémismes ?» Et il a dit « qu'est-ce que c'est un euphémisme ?» J'ai expliqué ce que c'était un euphémisme et il a dit « oui, ça je veux ». Donc en fait, il fait une traduction, dit « la Libye, c'est un pays compliqué, attends, je traduis, c'était l'enfer en vérité. En Libye, la vie était difficile, attends, je traduis, personne n'en revient en vérité. En vérité, tu veux que je te dise, ces mots sont faits pour ne pas te choquer. En vérité, tu veux que je te dise, mais... veux-tu seulement que je te dise ? Donc c'était une harangue aussi au spectateur pour savoir s'il voulait écouter ce qu'il avait à lui dire.
Ça s'adresse à nous quand même.
Ça s'adresse à nous, mais il a fait une phrase qui était extraordinaire sur la fin. Il a dit « la plupart des migrants ont fui la misère. Attends, je traduis. On est tous des survivants. On n'est pas un migrant quand on traverse l'enfer. Et moi, je me refuse de n'être qu'un migrant. » Cette phrase-là forçait l'admiration, mais c'était à l'intérieur de tout un processus de mise à jour de mots, puisque même pour les jeunes qui partent, il est très difficile de comprendre à quel endroit ils n'ont plus le choix. Et déjà, de travailler sur la localisation du moment où ils n'ont plus le choix, c'est faire un pas pour l'écriture de l'histoire. Donc à travers, là, dans le cas de ce film, Le Chant des Vivants, une proposition poétique, finalement, qui était, vous m'interrompez, hein, parce que sinon je papote, une proposition d'entretien non directif, donc j'intervenais très peu, il choisissait ce qu'il voulait raconter, mais pendant qu'il parlait, je prenais des notes, et comme je suis musicienne, je voyais les rimes à l'intérieur de ce qu'il disait, donc je leur proposais d'abord un thème, je disais « est-ce que tu es d'accord pour qu'on écrive là-dessus » et ensuite je tournais le cahier, je disais « tu vois, on pourrait essayer de composer une chanson avec cette rime-là », il disait « ok », et après je retournais le cahier, bien sûr, j'y allais moi pour commencer. Et c'est comme ça qu'on a écrit des chansons en français, des chansons en anglais, des chansons en poulard et des chansons en lingala. De façon à... Ce qui était intéressant aussi du point de vue de l'échange, de l'égalité de l'échange, puisque dans un sens, j'ai été en soutien, et dans l'autre, il a fallu... J'ai failli aussi faire une chanson en tigrinya, mais ça avait une structure rythmique qui était très difficile pour moi d'appréhender. Donc en fait, c'était à l'oreille de comprendre la césure et la rythmique pour que ça puisse se tenir. Et sachant que dans l'évolution de la composition des chants, quand on parle en français, on s'adresse aux Français. Quand on parle en anglais, on s'adresse au monde. Quand on parle en peul ou en lingala, on s'adresse aux siens. Donc la réappropriation de la langue maternelle pour le récit de ce qu'il est convenu d'appeler l'exil et qui est une route de déportation est très important, puisque il y avait une transformation du matin au soir. C'est-à-dire qu'un récit d'une très grande douleur, incommensurable presque, avec des difficultés de mise en mots, devenait fait chanson, la source de... Ça n'effaçait pas la douleur, bien sûr, hein, on ne va pas parler de pensée magique là. Mais ça permettait une fierté qui n'était pas présente le matin. La fierté d'avoir composé chacun leur chanson et puis tous ensemble un chant des vivants, puisqu'ils ont voulu une chanson pour tout le monde qui était tissée de morceaux de chacune de leur histoire.
Une des choses qui sont tout à fait remarquables pour nous dans ce film, l'expérience que vous relatez là, que vous avez vécu avec eux, c'est qu'il y a à la fois sur le travail sur la langue et sur les mots, qui est quand même très important pour nous, et qui sommes soumis à l'obligation de ne pas faire dire n'importe quoi aux mots. Il y a le fait de cette approche vivante et au plus près des réalités qui doit aussi nous obliger dans une période comme celle que nous traversons, où on ne peut pas parler n'importe comment de n'importe quoi. Il faut avoir une approche aussi concrète, aussi près de la réalité que possible, et ça nous interpelle aussi. Sur quoi pouvons-nous écrire? Que pouvons-nous écrire si nous n'avons pas, d'une certaine manière, l'expérience de ce dont nous parlons aujourd'hui?
C'est
ça qui est important dans ce film. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas éluder, qui est l'engagement, qui est l'engagement très très fort. Est-ce que nous pouvons nous contenter d'être dans le sujet sans vous engager d'une certaine manière?
Non.
Voilà. Et l'expérience prouve que non. Prouve que ce n'était pas possible.
Non, parce que, en fait, je pense que face à l'ampleur, à la gravité d'un crime de masse, qui en plus, franchement, il y a une grande simplification. On dit oui, c'est le retour des routes de l'esclavage. Non, ce n'est pas le retour des routes de l'esclavage. C'est quelque chose qui a pu être mis en place parce que nous avons créé des barrières et faciliter faciliter la détention de centaines de milliers de gens. Je vous rappelle, en Libye, chaque année, il y a entre 600 et 800 000 jeunes et moins jeunes détenus dans des conditions c'est justement plus déplorable, concentrationnaire, soyons précis.
Et ça, c'est une des questions, c'est une des questions majeures qui sont posées, c'est la Libye qui est un scandale total et absolu. Comment se fait-il que nous ne nous emparions pas davantage de ce sujet?
Parce que alors, la Libye, là je peux vous répondre, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la Libye, c'est ce qu'on appelle une no-go zone. Donc ça veut dire que le lieu est tellement dangereux que les médias traditionnels n'ont plus l'argent pour couvrir, du point de vue des assurances, les journalistes qui s'y rendraient. Voilà, ça c'est un premier problème. Donc la même chose vaut pour des autorités d'enquête judiciaire. Donc des investigateurs judiciaires impartiaux, disons envoyés par la haie, si tant est que la haie fonctionne, je ne crois pas beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas démontré qu'elle fait ses preuves, sauf récemment avec l'Afrique du Sud. Mais pour le reste, sur le continent africain, a commis de très nombreuses injustices en condamnant des gens qui sont certes des criminels de guerre, mais alors pourquoi qu'en Afrique et pas les Ouïghours et pas le problème du Cachemire et pas Guantanamo, etc. Donc là, il y a des problèmes importants qui délégitimisent aussi son action sur le continent africain, malheureusement. je me suis un peu perdue. Je disais, le problème de la Libye, le second problème, c'est le mutisme des survivants qui a été longtemps... Les survivants ont été condamnés au silence pendant très longtemps, d'abord parce que nous ne leur avons pas cru. Ils arrivaient sur le territoire européen, ils racontaient ce qu'ils avaient traversé, ça paraissait tellement invraisemblable que les institutions dites de l'accueil disaient « Non mais attendez, revenons à la Convention de Genève qui dit que qu'est-ce que vous faisiez dans votre pays? Ah, votre papa était coiffeur, alors vous n'aviez pas de problème ». Bon, mais alors si entre-temps on s'est fait charcuter pendant 3 ans, torturer et violer, ça n'a aucune espèce d'importance pour l'attribution de l'asile, donc pour l'écriture de l'histoire. Donc, gros problème de transformation d'une parole en quelque chose d'extrêmement euphémisé, qui ne permet pas de s'endurer dans une parole historique. Première chose. Deuxième chose, les survivants eux-mêmes. Parce que pendant très longtemps, il a été maintenu le tabou sur le nombre de viols subis par hommes et femmes. Femmes et hommes. Les femmes plus, mais les hommes aussi. Donc, quand on arrivait, il y avait d'abord des problèmes qui défaisaient les communautés sur le continent européen. C'est-à-dire que 2 survivants ensemble ont des appareils génitaux qui sont probablement abîmés, pas toujours, mais souvent. Et donc, ça créait des problèmes. Moi, j'ai connu des couples qui se déchiraient. Le mari était passé d'abord, la femme après, la femme violée, le mari ne la voulait plus. Ou bien, le mari avait été violé, ne pouvait pas se reproduire, rejetait la faute sur la femme qui n'y était pour rien. Et voilà, ou bien, moi j'ai connu aussi des jeunes en hérité, dans le Sinaï, il y en a un qui carrément ne peut pas procréer. Donc ce qui a posé même l'hypothèse d'une commande du crime de masse de la part du dictateur, comme une sous-traitance du système de répression hors des frontières. Ce qui est une hypothèse aujourd'hui encore très étudiée par les experts. Hein. Parce que sinon ça n'explique pas le Sinaï, cet endroit-là. Il y a plein d'hypothèses dont je pourrais parler. Mais donc le secret maintenu par les survivants n'a pas non plus permis. Mais si vous voulez, là c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui est coupable en premier ? Le survivant qui n'a pas parlé et l'accueillant qui n'a pas écouté. Voilà. En tout cas aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que tout fonctionne pour nier et reformuler. Donc on parle de migration et pas de déportation, on parle de camps de rétention. Camps de rétention, je ne sais pas vous, mais moi ça m'évoque quelqu'un qui a un verre d'eau, que de temps en temps on lui amène un sandwich, ça ne m'évoque pas 300 personnes dans un hangar qui pèsent 37 kilos et qui ont tous la tuberculose et à qui de temps en temps on prélève un organe ou qu'on viole la nuit. Donc cette dimension-là ne correspond en rien à un camp de rétention, mais bien à un camp de concentration. Ensuite, on parle de naufrage, alors que c'est encore un trafic. C'est-à-dire qu'il y a déportation sur la déportation pour avoir une chance de survivre. Et puis on parle d'un système d'accueil qui, je vais vous raconter une histoire, il y avait une jeune Somalienne qui est allée en appel à la Cour nationale du droit d'asile défendre son cas qui avait été débouté à l'OFPRA. Cette jeune Somalienne n'arrivait pas à parler. Ça m'était rapporté cette histoire par une amie qui fait partie des frondes des magistrats qui refusent le système, la réforme du droit d'asile telle qu'elle est pratiquée. Ne pouvait pas parler. Au bout de 5 minutes, le président de la Chambre regarde sa montre et dit « Bon, ben, elle ne parle pas au QTF, obligation de quitter le territoire français. » Là, il y a eu, heureusement, un arrêt de la part d'une autre magistrate qui est cette amie, qui a dit si vous faites ça, je vais provoquer une grève dans la Cour nationale. Nous allons donner à madame le temps de parler. » Et en donnant à madame le temps de parler, il s'est avéré qu'elle avait été violée en Somalie, en Libye, en Italie et en France. Et c'est pour ça que la parole ne pouvait pas émerger. Donc, heureusement, elle a pu parler avec l'aide de cette personne et donc elle a obtenu l'asile, évidemment. Mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi cette espèce d'illusion que les personnes qui passent par la Libye, on devrait les trier pour savoir qui mérite l'asile, qui ne mérite pas l'asile. Ça, c'est une violation des conventions internationales, puisque la Libye est en fait un pays en guerre, mais que nous ne déclarons pas comme tel. Et donc nous déclarons la Libye comme un pays où il y a des conflits irrédentistes entre factions de miliciens, etc. Ce qui nous permet de ne pas déclarer la Libye comme pays en guerre, parce que sinon toutes les personnes qui s'y trouvent devraient être réfugiées automatiquement avec l'asile politique. Et ce qui nous amène à cette situation qui est vraiment indigne, de devoir demander à quelqu'un qui a été détenu, torturé et violé en Libye, mais que faisais-tu à ton origine, à ton point d'origine, donc au Tchad, au Gabon, en Bénin, en Guinée? Est-ce qu'il y avait bien une guerre ou un conflit ou un risque politique? Est-ce que tu étais vraiment en danger? Et quelque part, qu'importe aujourd'hui, puisque la Libye met toutes les personnes d'Est en Ouest sur un plan d'égalité. Et je pense que je vais passer la parole quand même, parce que ça fait longtemps que je
n'ai
pas.
En fait, je voudrais demander à Fatoumata Diallouba et Yassine Mouifrine de réagir à ce qu'ils viennent d'entendre là.
Oui, oui. Voilà. Donc Fatoumata, est-ce que vous pouvez réagir?
Alors moi, je suis presque tétanisée face à tout ce que vous dites.
Oui. Attendez, je vais d'abord mettre un peu plus fort.
C'est très très puissant parce que...
Il faut parler bien en face du micro, très proche du micro, je dirais, hein, Fatoumata, oui. Que toute la salle entende, pardon.
Alors, est-ce que vous entendez?
Oui, oui, très bien.
Vous m'entendez,
oui,
là?
Très bien.
Alors, je réagis par rapport à ce que vous avez dit, là, et je suis un peu tétanisée devant la violence des faits, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, Là, vous entendez ?
Oui.
Et je me disais, qu'est-ce que vont valoir mes mots face à ce que vous avez dit là, face à ce que vous avez vu, face aux travestissements, face aux falsifications qui ont été faites, face aux euphémismes. Que vaut aujourd'hui la parole d'un écrivain ? Que vaut une parole fictive devant la violence de la réalité ? Et vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ça m'a un peu tétanisée, ça a accéléré en fait une forme de prise de conscience de ce vécu que bon moi peut-être de manière tout à fait naïve j'appelais l'épopée ou l'odyssée ou une forme d'héroïsme. Je redescends sur terre. Oui. Et je vous remercie pour cela. Moi qui suis au Sénégal, touchée bien entendu par les images, touchée par les discours, touchée par tout ce qui tourne autour de la migration. C'est très très violent de voir les images de migrants qui n'ont même pas su passer la première barre de Saint-Louis. Ouais. Ils n'ont même pas pu passer, c'est-à-dire qu'ils reviennent en cadavre. Ils retournent en cadavre sur les berges du fleuve Sénégal ou de l'Atlantique. Je le vois, c'est bien sûr violent, mais excusez-moi, parce que là, il y a une coupure de courant chez nous.
C'est pas grave.
Et je ne sais pas si vous m'entendez, ça va revenir.
C'est bon quand même.
Voilà, donc ma réaction, elle est là, c'est une réaction je suis sans mots, tout d'un coup. Et quand un professeur, je suis dans une salle de classe là, quand un professeur ou un écrivain devant sa page entend des récits comme ceux que vous avez racontés, on se dit, et je l'avais noté bon, au début de ma communication, de ce que j'avais écrit, que peut la littérature face à tout ça.
Mais justement, on manque de récits, on manque de voix. Moi, à titre personnel, je cherche et je trouve, en fait, je vais vous dire, la communauté, d'origine du continent africain qui n'a pas souffert de ça, qui n'a pas traversé la Libye dans ces conditions-là, est occupée par d'autres luttes comme l'afroféminisme, le mouvement Black Lives Matter, énormément de causes qui sont très importantes. Mais celle-là, c'est une urgence. Et du
Absolument.
Coup, on manque cruellement de voix. Et les seules voix, je vais vous dire, j'ai trouvé des poètes, mais qui étaient décédés dans les naufrages. J'ai amené ici quelques. Je les ai trouvés placardés sur les murs de Palerme quand j'étais allée voir des militants des droits de l'homme, parce que il y a des mesures conservatoires même à prendre de textes de jeunes hommes et femmes qui écrivent, mais qui après disparaissent dans l'oubli, comme quelque chose qui... Je vais essayer de le retrouver, mais pendant que vous parlez, pour vous le lire.
Oui.
Voilà.
Oui.
Mais c'est urgent, et il y a besoin de représentants qui soient peut-être en meilleure santé mentale, j'entends. Parce qu'en fait, un survivant, pour vraiment raconter ce qu'il a vécu, il met 15 ans. Hein. Ça, on l'a déjà vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on commence à y arriver... Mais c'est plus simple pour des non-survivants de se faire le relais, parfois.
Tout à fait. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que la migration, c'est pas simplement ceux qui partent, c'est également ceux qui restent. En particulier les femmes. Je me suis beaucoup intéressée au cas des femmes qui meublent l'absence par la présence des fantômes. Dans le film de Mathilde Diop, Atlantique, d'aucuns lui ont reproché d'avoir introduit une dose de fantastique, ce que fait également Fatou Diop dans Les Veilleurs de Sangoma. Mais c'est ça, c'est la folie qui guette ceux qui restent. En même temps qu'elle guette les survivants, la folie s'empare également de celles qui demeurent, des mamans, des frères et sœurs. Alors, Je peux continuer ou
Oui. Comment?
Voilà, c'était juste une réaction. Peut-être tout à l'heure, je vous donnerai
très bien
la petite production que j'ai faite sur le sujet.
À plus tard.
À moins que vous me donniez la parole.
Merci. Ce que vous voulez pour réagir quoi? Attendez, après. Tout de suite après, bien sûr. Non, on est là.
C'était.
Est-ce que vous pourriez tourner le micro?
Oui, il y a Steve qui va parler.
Il y a quelqu'un qui souhaitait intervenir. Alors, c'est. Déjà, merci. Merci de m'avoir invité à prendre part à cette discussion. On sort un peu comme ça, brutalement, d'une sorte de sommeil dogmatique du fait des clichés finalement qui sont montrés et réitérés et qui finissent presque par prendre le pas sur la réalité. Là, ce que vous dites à l'instant réveille avec beaucoup de violence en fait la réalité, mais aussi a le mérite de mettre un visage humain là où c'est souvent le cliché qui fonctionne, et on découvre combien les conditions de ceux qui survivent, et votre mot il est juste. Alors dimanche j'ai reçu une série de textos, de vocaux WhatsApp d'un jeune homme avec lequel je travaille en ce moment. Je suis en résidence dans un établissement, dans un lycée du côté de Aubervilliers. Donc j'ai des jeunes de la seconde en terminale. Et beaucoup de ces jeunes-là sont passés par la Libye, le Maroc et pas mal de pays. Et on leur demande d'écrire sur des choses. Et j'ai commencé à percevoir chez certains le désir de parler de ce qu'on ne leur demandait pas à ce moment-là, puisque l'atelier d'écriture était tourné sur l'écriture de la ville, sur l'écriture de son expérience, mais son expérience dans la ville. Et puis j'ai des jeunes qui m'ont approché et qui m'ont dit « Nous, on a des choses à raconter, et on aimerait bien les raconter, mais on ne peut pas les raconter ici. » Et moi, ne voulant pas forcer, j'ai dit « Mais vous me raconterez quand vous le souhaiterez. » Je pourrais vous écouter, vous choisissez la façon. Et puis l'un d'eux m'a dit, moi j'ai vraiment envie de vous raconter, Willy, mais j'ai honte. J'ai dit, à ce point, honte. Et il avait donc commencé à me faire le récit de ses promenades en Italie. Lorsqu'il est enfin arrivé en Italie, il disait qu'il trouvait refuge parmi les arbres. Il n'arrivait pas à le dire avec les mots, et la seule façon pour lui de le faire, c'était de dessiner. Et donc il m'a montré des dessins pour me dire, voilà, c'est la seule chose que j'arrive à faire. Et c'est ce jeune-là, alors que j'étais en train de me promener dans la campagne, qui a commencé à faire sonner mon téléphone, et il m'a raconté son parcours. Et avec ce que vous dites, je vois comment les discours se rejoignent. Vous, votre expérience, le témoignage que vous nous apportez et le discours de ce jeune homme qui est un survivant. Il n'est pas le seul. Hein. J'ai d'autres récits comme ça que je tiens d'une association informelle, mais je parle de lui parce que c'est frais. Et lorsqu'il raconte, il raconte une première fois où il survit du côté de Amelilia. Ils sont dans un trou parce qu'ils sont jetés là-dedans par un passeur. Le trou fait 3 mètres. Les autres, quelques heures plus tard, il faut en sortir, donc ils font un peu la courte échelle, ils réussissent à en sortir, et bien tous les autres sont tués. Tous ceux qui vont sortir là seront tués. Et lui, il a de la chance, il reste au fond, et on ne viendra pas le chercher, il s'en sortira heureusement plus tard. Et puis plus loin, du côté de la Libye, parce qu'il a fait beaucoup d'allers-retours, déporté ici et là par des passeurs. Du côté de la Libye, pareil. Une première fois, ils sont pris, on va les jeter au large du désert. Ils reviennent. Évidemment, il y a des morts en chemin hein, que le sable prend. Ils tombent sur une embuscade. Ils essuient des balles, des rafales de balles, dit-il. Là, ils échappent quelques-uns. Alors, ce que je n'imaginais pas, c'était le nombre. Mmh. Parce qu'il dit dans l'espèce de caserne ou de lieu où, en tout cas, ils sont entassés, mmh. ils finissent par être à 300. Et il raconte dans ces derniers 300, une nuit, l'une des dernières qu'il passe là sur le sol libyen, il va y avoir encore une descente. Et ça va tirer à la mitrailleuse. Mmh. Et il raconte qu'ils sont, de ce qu'il dit, une dizaine. Le reste, peut-être il y a des gens qui se sont perdus, mais on sait qu'il y a des corps, on voit des corps, là, c'est des expériences absolument terribles, parce qu'on parle de jeunes, en plus. Et là, je vous suis complètement, et c'est ce qui fait aussi peut-être que je m'intéresse à ces questions. Ce sont les concepts dont on fait usage pour pouvoir désigner des expériences qui sont tout simplement barbares, qui sont inhumaines et qui évitent ou qui ne permettent pas à un grand nombre de personnes de pouvoir accéder ou de pouvoir approcher, parce qu'on ne connaîtra pas cette réalité-là, quels que soient les formes, mais au moins pour essayer de la rendre, essayer de se la rendre intelligible, on a besoin des mots, des mots qui disent, des mots qui essaient de rendre raison de cette réalité, et donc de traverser ce que vous appelez, et même de déchirer ce que vous appelez des euphémismes, parce que c'est effectivement comme ça que ça nous revient, cette idée de migrant, cette idée de migration qui ne dit pas la somme de vie mutilée et parfois même anéantie derrière.
Alors moi je vous fais mes excuses, mais pour moi, je n'avais qu'une heure pour une raison très simple, c'est que j'ai une petite fille toute seule, et donc je ne peux pas me permettre, mais je serais très heureuse déjà d'échanger les contacts pour continuer la discussion, parce que l'atelier théâtre c'est sur Aubervilliers aussi.
Non.
Si. Et puis je ne sais pas si vous voulez, je vous lis ce poème de ce jeune.
Je crois que c'est très important qu'on fasse vivre des choses comme ça, des poèmes comme celui-là, il faut que ça vive.
Mais vraiment, ouais. je les recueille de façon très erratique, donc...
Il faut dire ce qu'on pourrait faire de mieux. Ouais. J'ai des idées, des personnes qui rendent.
Mais on se reparlera. Ouais. On se reparlera un jour où j'aurai pas ma fille à garder, mais je veux te donner à venir, parce que quand même...
Encore une fois, ce soir, c'est un départ.
Voilà,
on va continuer. On va vraiment continuer à travailler ensemble.
Alors je vous lis, c'est un poème d'un... Alors, je vous fais une traduction rapide en italien, de l'italien. Tu rencontreras ton destin, aujourd'hui, demain ou le surlendemain. Personne ne peut arrêter ce cercle de destruction qui se brise sur ton corps. Tout est en vain, rien ni personne n'arrivera à ton secours. Rien ni personne ne récupérera les cadavres de ce monde. Aucune lueur a épouvanté cette obscurité. En vain, tout mourra, le temps, les paroles, les hurlements, les rêves et les chansons, l'amour et la musique. En vain, tout disparaîtra. Sauf un vide secoué, la violence de corps sans vie, enveloppé dans un silence lugubre, dans une infernale destruction, un déluge de la gorge du paradis. Écrit par Abdel Wahab Latinos, qui est un poète soudanais qui s'est noyé au large de la Libye le 16 août 2020. Voilà. Je vous quitterai là-dessus, mais avec l'espoir de vous retrouver pour une prochaine... excusez-moi mauvaise éducation.
On se reverra.
Merci. J'espère vraiment qu'on restera en contact. Vous mettrez en contact.
Entendu. Je vais poser une question.
Vous êtes en train de constituer un mémorial, parce que c'est des gens de qui ont écrit, qui ont une phrase de mémorial.
Oui,
je suis obligée de rentrer parce que ma fille est toute seule, mais je serais heureuse de
voir. Excusez-moi, je voulais juste poser une question sur le travail théâtral.
Oui.
Ça va être au Théâtre de l'Opprimé qui est.
Alors on a fait une résidence à l'espace Renaudy, on va chercher des fonds qu'on n'a pas encore. Il y a un jeune acteur qui est d'origine tchadienne, qui est survivant, qui s'appelle Mohamed Amin, qui va également nous permettre, je pense, de lever des fonds, parce qu'il est, je pense, l'étoile filante du cinéma indépendant, comme rarement on en a, quoi. En 2016, Libye, aujourd'hui, dans des films, des courts-métrages, des longs-métrages. Donc, on commence à créer une communauté. Et moi, j'espère aussi bientôt disparaître, au sens où, comme témoin, vous voyez, passer le relais à des survivants qui parleront à la première personne. C'est aussi pour ça que je crée ce... Au terme de cette résidence, on espère que se créera une troupe de survivants. Voilà, moi, ce serait mon souhait, en tout cas, qui s'auto-organisera pour écrire. Et je n'en ferai plus partie. Parce que moi, je suis un témoin de l'histoire. Les traumatismes que j'ai, moi, sont des traumatismes vicariants, ce qu'on appelle. C'est à force d'entendre des centaines de témoignages, je suis touchée moi-même, mais je ne suis pas survivante. Donc je souhaite que quelqu'un prenne cette place.
Mais on pourrait être au courant de...
Oh ben oui, bien sûr. On refera des... Et voilà, et Steve, j'espère. Je passe un coup de
fou
comme ça.
Non, non, mais on va...
77,
ouais.
30.
Voilà. Si, si, allez-y, j'ai 3 minutes et après...
Allez-y, là.
Merci.
Alors, il faut que je me présente d'abord pour dire de quoi je parle. Je suis, moi, je dirige les archives de l'OFPRA, Office de protection d'un projet à la
patrie. Ah, oui.
Et j'écris sur l'histoire de l'asile. Donc, je suis absolument très bouleversée par ce que vous dites. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que les mots sont essentiels. Maintenant, justement, je ne suis pas d'accord avec certaines choses que vous avez dites. Je vais vous dire très vite, puisque vous avez parlé
de l'OFPRA.
Je sais que vous êtes allé voir l'OFPRA, je sais.
Non,
mais,
je formé.
Mais je sais, je sais.
Plusieurs fois.
Mais je sais.
Allez-y, madame. Dites,
est-ce que vous pouvez me laisser...
Oui.
Alors, je voulais dire d'abord, ne pas utiliser le mot migration, comme le débat est sur l'immigration en général, le mot migrant. Ouais. Là, vous parlez que de ceux qui passent par la Libye. Oui. Ou qui... Alors, donc, les migrants ne viennent pas que d'Afrique.
Non, bien
donc,
sûr.
C'est pas pour dire que le mot migrant, on peut l'utiliser, puis... enfin, après,
ah
vous faites
non,
ce que vous voulez,
mais... Faut pas l'utiliser.
Ah, j'ai... mais c'est comme ça que vous avez commencé, d'accord.
Non,
parce qu'il y a d'autres migrants qui ne viennent pas d'Afrique, qui passent par d'autres, qui ne vivent pas ces drames-là. Comme votre sujet général,
oui,
je
pense que c'est vrai, mais il me paraissait important de commencer par ça.
Mais bien sûr, et je voulais dire aussi que je pense que il y a des choses que vous avez dites sur les organismes d'accueil, sur la CNDA et sur l'OFPRA, qui me paraissent pas tout à fait justes sur le plan justement factuel et des mots que vous mettez. La convention, que la Convention de Genève demande de voir, fasse un tri depuis l'origine, elle est comme ça. On peut dire qu'on n'a pas à faire un tri, ou ça c'est un
non,
débat.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non mais j'ai pas, pardon, mais ouais. Vous avez dit on ne peut pas faire un tri en disant ah monsieur vous venez de tel pays, votre père était coiffeur donc vous ne craignez rien. D'abord ça c'est pas possible, si, je l'ai noté parce que vous l'avez dit
non,
tout à
l'heure.
Non, on connaît bien le fondateur de l'OFPRA, madame.
Là, je m'excuse, les mots...
Bah, alors attendez, est-ce que je peux parler?
Allez-y,
oui, mais bon. Le problème c'est que si vous reformulez d'une façon qui n'est pas celle que je l'ai formulée, ça
non mais c'est bon. Non. Vous avez donc laissé entendre que, en fait, on ne pouvait pas décider, on ne pouvait pas juger sur le pays d'origine, il fallait juger sur ce qu'ils avaient traversé. Or, la Convention, et vous avez dit que c'est contraire à la Convention. Non, la Convention de Genève.
La Convention de Genève dit justement ça, qu'on juge sur l'origine.
Voilà.
Et pas sur ce qu'on a traversé. C'est un gros
défaut. D'accord. Voilà. C'est peut-être un défaut, mais depuis l'origine.
Oui, c'est un cadre qui est venu un peu.
Bon, j'arrête. Sylvestre, laissez-la finir.
Mais non, mais c'est.
N'intervient pas si belle.
Et pareil, quelqu'un de un juge de la CNDA, enfin je ne les connais pas tous, hein, mais ne dirait pas, c'est pas eux qui délivrent les OQTF. Donc il peut, s'il dit ça, ça peut être une provocation, c'est peut-être que c'est quelqu'un de très méchant, c'est possible, hein, mais ni l'OFPRA ni la CNDA ne délivrent des OQTF. Hein. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que. Et donc je pense que moi, je travaille depuis des années à ouvrir ces archives, à permettre aux gens à retrouver leur histoire, à permettre à construire cette histoire, et donc je trouve que c'est dommage. Quels que soient les drames qui sont incontestables que vous évoquez, que c'est dommage de caricaturer des institutions qui sont plutôt du côté, malgré tout, du côté de ce qu'il faut protéger. Alors, et donc c'est tout. Je veux dire, il ne faut pas dire non plus des choses qui ne sont pas tout à fait
exactes. Écoutez, je vais vous dire, moi je ne suis pas d'accord pour une raison très simple. Il y a 17% d'attribution de demandes d'asile aujourd'hui en France. Par 17%.
Non, il y a 40%. Mais attendez, regardez les stats.
Non mais écoutez, moi je connais très bien Pascal Brice, les chiffres je les ai.
Pascal Brice, il n'est plus.
Il n'est plus là, mais je le connais très bien.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les chiffres aujourd'hui, c'est 40. Donc je ne sais pas.
Mais ce n'est pas 40, enfin, ce n'est pas du tout les chiffres officiels. Donc. C'est pas du tout 40%. Si on admettait une personne sur deux en France, ça se saurait. Je peux vous dire qu'il y aura de très très nombreuses. Non, on n'admet pas une personne sur deux. Mais non, enfin, c'est pas vrai. Alors là, les chiffres sont faux, je suis désolée. Là, vous donnez pas les vrais chiffres. C'est pas une personne sur deux qui a l'asile en France.
J'ai pas dit une personne sur deux, j'ai dit
40%.
Non, c'est à l'issue de toute la procédure, y compris la CEDEA. Donc voilà. Mais je vous assure, enfin, si vous croyez moi,
attendez, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai. Non, mais il n'y a pas de souci. Ce que je veux vous dire, c'est que quand même, j'ai suffisamment discuté avec des officiers de protection qui étaient vraiment dans l'ignorance de ce qui se passait, qui étaient eux-mêmes, et vous le savez, il y a un mouvement de fronde à l'intérieur de l'OFPRA parce qu'ils n'arrivent plus à faire leur travail avec des consignes. Il y a un mouvement de fronde à l'intérieur de la Cour nationale du droit d'asile, donc je ne vous dis pas que tout le monde est pourri, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que simplement, en tout cas, moi, je peux vous dire qu'en 2014, quand je suis venue former les officiers de l'OFPRA, ils ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur du Sinaï. Il fallait leur transmettre l'information. Et attendez, donc ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est très bien, mais ils ne peuvent pas attribuer l'asile parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire aujourd'hui de la meilleure façon possible en tenant compte de ce qui a été vraiment vécu sur la route. De ce qui... Oui, bon, enfin, moi, je ne sais pas pourquoi on a ce débat, puisqu'on est, on est quand même, si vous voulez...
Non, mais écoutez, madame, on était vraiment parti sur autre chose, on était sur une autre dimension.
Non, mais c'est important que le reste et la Cour nationale du droit d'asile
sont des instances de dépôt des récits.
Un peu décalé par rapport à la réalité que nous...
Non, il y a une histoire qui est liée au droit et qui est importante et qui est aussi de comment est-ce qu'on dépose des récits dans une institution qui est deux institutions qui sont censées justement estimer la gravité des faits et pouvoir attribuer l'asile. Mais ce que je vous dis aussi, madame, si vous avez écouté, c'est que la Libye n'étant pas reconnue comme une zone de guerre, si elle était reconnue comme une zone de guerre, nous ne serions pas là en train de parler ni de chiffres ni de rien. Les personnes traversant la Libye auraient un statut de victime de guerre.
Attends, la jurisprudence actuelle, c'est quand leur pays, d'abord, la Convention de Genève, dès l'origine, excluait les victimes de guerre de la Convention, et ça a duré jusqu'aux années, ça a duré jusqu'en 2003, jusqu'à la protection subsidiaire. Donc aujourd'hui, on peut, effectivement, ce sont les Afghans, par exemple, qui en bénéficient, on peut protéger des gens qui sont victimes d'une violence généralisée dans leur pays, c'est-à-dire une guerre civile. Mais dans leur pays, donc je suis pas sûre, après, je suis pas sûre que si les gens, parce qu'ils traversent la Libye qui n'est pas leur pays, et donc, ça fonctionnerait. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose.
C'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui est en train de se débattre au niveau du droit international pénal. C'est de dire, nous n'avons plus les outils, mais je peux en parler encore pendant des heures. Je suis très précise, j'ai aucun problème avec ça. Au niveau du droit international pénal, comme on est sur des donneurs d'ordre qui sont d'une nationalité, mais qui se trouvent sur un autre territoire, qui est complètement... Et qui, bon, donc, en fait, c'est un peu comme, je ne sais pas, vous vous souvenez l'histoire des femmes qui étaient données en pâture en Sierra Leone à des combattants et qu'on considérait comme complices de crimes de guerre. Aujourd'hui, elles sont considérées comme victimes de crimes de guerre. Et il y a des programmes de réintégration de ces femmes, à la fois en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, qui les considèrent comme victimes de guerre, et c'est né de l'ex-Yougoslavie pour les femmes victimes de viol serbes, ok ? Donc le droit a évolué. Pourquoi il a évolué ? Parce qu'on a eu l'ex-Yougoslavie qui était bien plus proche de nos frontières. Là, on a un problème de droit pénal international qui nous amène à ne pas reconnaître comme des survivants de camps de concentration des personnes qui sont à tous les effets des survivants de camps de concentration. Et je ne vous dis pas que dans le lot, on n'a pas des trafiquants qui se glissent, hein, mais on va en parler peut-être dans une autre session, et qu'il faut reconnaître et qu'il faut ensuite référer à l'Office de répression des crimes de guerre et génocide. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, l'écrasante majorité sont des survivants. Donc, de quand ?
Encore une fois, je n'ai pas du tout contesté ça. Hein. J'ai juste dit que comme le sujet était généralement sur l'immigration et que vous avez commencé sur les migrants, mais uniquement en parlant de ce cas, je voulais juste recadrer. Et puis, comme vous avez dit certaines choses sur... les procédures de protection, effectivement, un droit qui est très évolutif. Oui. Je voulais juste remettre quelques... Comme moi aussi, mon souci quand je fais de l'histoire dans ce domaine, c'est de mettre des mots exacts et de voir les évolutions, comment elles se construisent. Je pense qu'on a tous intérêt, si je pourrais me permettre.
On a tous intérêt, bien sûr.
On a tous intérêt dans le contexte actuel à malgré tout ne pas trop... caricaturer certaines choses.
Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est le problème des rejets de demandes face à des survivants qui ont des récits de façon consistante, qui n'ont rien de poétique, qui n'ont rien d'une odyssée, hélas, qui n'ont rien de quelque chose d'une geste. Ce sont des héros, ça c'est sûr. Moi, vraiment, je vous assure, là, ça fait quand même 12 ans que je travaille au contact de jeunes qui ont survécu. Parfois, enfin, tout le temps, ça vous rend humble pour une raison très simple, c'est que vous vous posez la question de savoir si vous auriez survécu avec tout ce qui est raconté. Mais ce qui vous pose aussi question, et je pense que toutes les personnes qui sont militants des droits de l'homme aujourd'hui en France se la posent, parce que vous savez, peut-être vous connaissez Léonard Vincent qui a co-créé Radio RNA, la radio de la résistance érythréenne. Vous savez qu'il est en burn-out. À force de voir le piétinement du droit sur certaines personnes, Binyam Simon, qui vit au bord d'une autoroute, qui est un monsieur, qui est un résistant de l'intérieur de l'Érythrée, qu'on a été chercher au Japon parce qu'il était au risque d'être empoisonné. Mais concernant, si vous voulez, je vais finir sur une petite blague très mauvaise. Quand l'Ukraine s'est produite, il y a une blague qui circulait, qui disait un bon réfugié, c'est quelqu'un, il y a la guerre dans son pays, il fuit la guerre, il fait sa demande de réfugié et il l'obtient. Un mauvais réfugié, c'est quelqu'un, il y a la guerre dans son pays, il fuit la guerre, et il fait sa demande de réfugié, mais il est noir. Voilà, c'était ça la blague. Et malheureusement, moi, je ne peux que constater ça dans mon travail et dans mon engagement. Mais après, je suis tout à fait ouverte à poursuivre la discussion, y compris sur la précision historique des choses. Je dois y aller, pardon, je m'excuse.
Merci.
Je m'excuse, hein, vraiment.
Merci.
Mais c'est pas une non volonté de débattre.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Je n'entends pas. Est-ce que c'est possible de tourner le micro vers la personne qui parle?
Philippe te donnera ses coordonnées.
Oui, avec grand plaisir. Hein. Et donc, à une prochaine fois.
À bientôt.
À bientôt.
Je n'entends pas.
Au revoir. Voilà. Bon, on va. Après ces échanges d'une grande densité, une grande richesse, on va continuer. Steve.
Qui parle là?
C'est Philippe pour l'instant.
Voilà, Philippe. Voilà. Voilà.
Mais il est où?
Très bien. Et maintenant, je vais donner la parole à Steve pour passer de ces cas terribles dont nous avons parlé. Avec une réflexion qui peut être la sienne, plus générale peut-être, sur la manière dont nous pouvons dire les migrations et comment il voit lui la question et comment il réfléchit lui-même sur le livre qu'il est en train de préparer.
Alors, j'ai envie de dire avec beaucoup de modestie que même si on va voir que ça rejoint... d'une certaine manière la question qu'on est en train de parler, parce qu'il s'agit en réalité de la même question. Et j'ai envie de dire que je m'intéresse beaucoup, je suis dans ma réflexion sur l'amont, je suis en amont, donc de ces drames, en amont de ces situations que l'on s'accorde à qualifier d'inhumaines. Dans la réflexion qui est la mienne, je me dis qu'est-ce qui me les gens, qu'est-ce qui amène à partir? Qu'est-ce qui nous amène à partir? Et là, ça concerne toutes les migrations. Ça peut être des conditions, effectivement, des conditions difficiles de vie. Ça peut être la guerre. Et au fondement de tout aussi, ça peut être l'image. La projection que l'on peut avoir, parce que le réel dans lequel nous sommes ou dans lequel nous sommes venus au monde ne semble pas réunir toutes les conditions pour nous accomplir. dans la réflexion qui est la mienne aussi, je m'intéresse à ces questions, à la migration à partir de notre éducation, à partir des images qui nous abreuvent. C'est une question que se pose Chamoiseau, qu'en littérature prévue pour nous, lorsque du matin jusqu'au soir, on s'abreuve d'images qui viennent d'ailleurs. Et modestement, je commence, moi, mon travail sur mon parcours, qui est aussi un parcours de migration. Mais un parcours de migration par rapport à tout ce qu'on a entendu dans cette première partie et dans ce premier moment, qui paraît presque romantique. Qui paraît comme ça presque romantique. Qu'est-ce qui nous amène ? Qu'est-ce qui nous amène à bouger, à avoir ce désir, à partir ailleurs ? On se rend compte que dans la réflexion, et on la retrouve aussi parce qu'elle perle comme ça la littérature africaine, il y a cette idée que le réel dans lequel on évolue, dans lequel on est venu au monde, ne possède pas une représentation positive de lui-même. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, en tout cas l'école dans laquelle j'ai été, Fatou nous dira la sienne, mais c'est l'école dans laquelle moi j'ai été, nous, et à l'époque où j'ai été dans cette école-là, c'est-à-dire à peu près 20 ans, je l'ai commencé à peu près 20 ans après le début des indépendances, c'était une école essentiellement tournée vers l'Europe, et notamment vers la France, avec cette idée que la réalisation d'un enfant gabonais ne pouvait se faire que d'abord en allant chercher la maîtrise de la langue française, mais aussi la maîtrise d'une série de savoirs. Ça, c'était une part. L'autre part, cette école nous enseignait que ceux qui relevaient de nos modes de vie coutumiers relevaient donc de l'indigénat. D'ailleurs, nous, on avait à l'école une chanson qu'on s'amusait d'ailleurs à chanter quasiment à la fin des heures de cours, dans laquelle on disait « Abba l'indigénat, souvenir de l'histoire ». Voilà, et on chantait comme ça, juste avant d'aller retrouver notre monde, le monde dans lequel nous étions. Et il y avait comme ça une forme de dichotomie. On vivait dans une sorte de schizophrénie entre l'école qui nous enseignait donc ces savoirs qui nous amenaient vers plus d'humanité et l'autre, le monde dans lequel nous vivions les soirs, que nous ne savions pas nommer en français, puisque la réalité du français, c'est une réalité totalement française, totalement européenne, alors que je vais prendre quelque chose de très simple, je prends les fruits, parce que les fruits, ça parle. Dans ma littérature, dans la littérature, dans les lectures, dès le plus jeune âge, je mangeais des fraises, des framboises et tout le reste, alors que aujourd'hui encore, je ne sais pas nommer Nzunzibali Mingongbo. Vous voyez un peu l'écart, parce que la langue ne connaissait pas et ne s'intéressait pas, la langue française en tout cas ne s'intéressait pas à ce monde. Bref, ceci juste pour dire que donc on grandit d'une certaine manière, et c'est un philosophe, sociologue gabonais, Tonda, qui a écrit un livre Afro-dystopie, où il répond à un autre, le Sénégalais Felouine Sarr. Et dans Afro-dystopie, il parle avec le sous-titre « Vivre dans le rêve d'autrui ». Nous grandissons donc comme ça, d'une certaine manière, dans le rêve, dans un rêve qui n'est pas le nôtre, qui est celui des Européens, et en ce qui nous concerne, qui est le rêve des Français. Donc, je raconte dans ce travail auquel je fais allusion que finalement, nous autres qui parlions français, nous étions un peu les hussards à notre manière de la République. Parce que nous, on rentrait le soir, on était gaillards et on arrivait avec le français. C'est la langue qui est autorisée. En plus, moi, j'ai un père instituteur. Donc ça n'allait pas arranger les choses. Voilà. Et on avait cette grand-mère qui, elle, n'accédait pas au français parce qu'elle n'était pas allée, comme elle disait elle-même, ni Ngawo ou école de Biba en bas. Je ne suis pas allé à l'école des Blancs, et qui nous appelait d'ailleurs nous-mêmes les Blancs, parce que nous parlions une langue qu'elle n'a réussi à comprendre que quasiment à la fin de sa vie. Voilà. Donc je le dis comme ça, c'est pourquoi je dis ça paraît presque romantique au regard de ce qui a été dit. Et ce qui m'intéresse, moi, parce que je me t'ai dit, quand je faisais ce premier récit, je me dis, c'est moi qui décide d'y aller. Ensuite, j'essaie de faire une sorte d'archéologie et je me dis, mais qu'est-ce qui est à l'origine? Pourquoi cette fascination pour les lettres? Pourquoi cette fascination pour la littérature française? Et je remonte le fil et je vais la retrouver dans la tendre enfance. Et on peut le prendre donc comme ça, pour une... on peut le prendre et étendre cette lecture à une génération. Je me rends compte d'ailleurs que dans ma génération, c'est exactement ça. On veut tous faire des études, tous aller à la fac, parce qu'au bout de la fac, qui à l'époque au Gabon s'arrêtait en quatrième année, on irait en Occident. Qui en France, qui principalement, on vient quasiment à 70% en France. Après, il y a quelques-uns qui se retrouvent du côté du Canada et des États-Unis. Mais donc principalement en France, pour ceux qui quittent. Voilà. Et on est tous travaillés par ça. On est travaillés par ça. Mais on se rend compte que finalement, on marche aussi, suivant cela, sur les traces de nos pères. Quand on lit la littérature africaine, il y a quelque chose de l'ordre de la mission. On peut le voir déjà dans les écrits des gens comme Ngobeti, mais vous le retrouvez chez Ferdinand Oyono, avec Chemin d'Europe. On le retrouve chez des gens comme Laïkamara. Ce cheminement-là, nous ne l'avons pas inventé. Mais les premiers, ils sont dans l'âge colonial, nous on arrive après la proclamation des indépendances.
C'est ce qui fait la différence. Cette première génération, ça paraissait en somme tout à fait logique, dans la suite logique des choses. C'est une génération qui découvrait et qui découvrait les littératures, et il fallait bien qu'il commence par là, quoi, on a l'impression. Et ça paraissait, nous, en tout cas, c'est la génération que j'ai lue.
Absolument.
Donc cette génération-là, elle me paraissait de plein pied avec moi, elle me paraissait naturelle d'une certaine manière. Mm. Et c'est après que ça se complique.
Oui. C'est après que ça se complique, oui. Parce que nous, on se demande, oui. c'est une question qu'on se pose, après je m'arrête là, pour l'action que je me suis posée la nuit de mon arrivée en France. Parce que cette question, je la trimballe depuis 20 ans. Un peu plus de 20 ans maintenant, 22 exactement. Quand je suis arrivé sur le sol français, la première question que je me suis posée, c'est, était-ce nécessaire? Dans une sorte de déréliction comme ça, de spleen qui s'empare de moi, dans cette chambre de cousse du côté de Cachan, je me demande, et à haute voix, est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi je suis là? C'est une question à laquelle je n'ai pas pu répondre pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y a, on va dire aujourd'hui, 10 ans, à peu près, j'ai commencé à chercher à comprendre ce parcours, qui était le mien, mais aussi celui d'une série de gens, d'une génération qui pensait que son destin était d'aller ailleurs pour s'accomplir. Et donc interroger aussi, au-delà de nous, donc, la place et la responsabilité de nos États. De nos États. À la fois pour les conditions sociales et politiques dans lesquelles nous venons au monde et nous grandissons, donc la réalité qu'ils nous construisent, mais aussi par rapport à la manière dont ils nous façonnent, puisque c'est eux qui conçoivent, enfin qui sont censés concevoir les programmes pédagogiques. Or on voit que ceux de mon époque, en tout cas, c'était tout simplement ceux de la France, puisque j'étudiais exactement le même programme qu'un enfant de France, alors que j'étais au Gabon. Je vivais au bord de l'Angoumois, c'est le fleuve qui traverse ma ville et qui donne son nom à la province. Cependant, je ne connaissais pas le débit de l'Angoumois, alors que j'avais celui de la Seine, celui de la Loire, celui de... voilà. Donc ça pose des questions.
Et alors maintenant, pour la génération suivante, alors comment ça se passe? Quelle est la responsabilité des États, des programmes éducatifs?
Alors, les programmes éducatifs n'ont pas beaucoup évolué. Et ils n'ont pas beaucoup évolué. Pour vous dire, et je n'ai même pas parlé de l'histoire, la manière dont l'histoire nous a enseigné, parce que l'histoire, nous, pour nous, ça s'arrêtait à l'esclavage, par exemple. La découverte, on commence l'histoire par la découverte de nos côtes. En 1492, tout le monde a ce récit. La découverte des côtes gabonaises par Vasco de Gama, et Magellan. Voilà. Et avant ça, on ne sait pas. Donc nous commençons à exister à partir de 1492. Et on va nous raconter cette histoire.
Juste, voilà.
Donc elle vient toujours du dehors et du regard extérieur, mais il n'y a pas de travaux qui avaient été faits pour dire ce qu'était le Gabon, par exemple, avant Vasco de Gama. Il y a des choses qui existent, hein, je le sais aujourd'hui parce que j'ai fait des recherches, mais ces choses-là ne sont pas reprises pour être vulgarisées, pour enseigner aussi à ces jeunes qui sont dans cet état qu'on appelle aujourd'hui le Gabon, pour leur dire l'origine, par exemple, du peuplement de cette partie de l'Afrique. Voilà. Donc aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup évolué. Et il y a à côté de ça aussi, et la question de la langue, là, par rapport aux autres pays, par exemple des pays d'Afrique de l'Ouest, le Gabon, c'est un cas particulier. C'est-à-dire que nous, on n'a pas une langue que tout le monde parle. La langue que tout le monde parle, c'est le français.
Très bien. Merci pour le temps avance très vite. Je vais donc laisser la parole maintenant à Fatima Tadiallo, pas pour qu'elle nous dise maintenant ce qu'elle avait l'intention de nous dire et qu'elle avait préparé. Et donc, je vous la remercie.
J'ai pas entendu.
Voilà.
Excusez-moi.
Pardon. Ah oui, voilà, c'était tourné du mauvais sens. Oui. Je voulais vous laisser la parole, Fatimata, pour que vous nous disiez enfin ce que vous aviez préparé pour nous. Merci. Oui.
D'abord, moi, je tenais à vous remercier vraiment de m'avoir invité. Je remercie mon grand frère, Malik Diarra, qui m'a vraiment. Qui a pensé à moi pour une petite contribution dans ce cadre à la fois familial, enfin presque familial, hein, amical, et tout aussi sans non point prestige. Donc si je vous suis aussi reconnaissante, c'est parce que je suis seule, donc nomade, et dans mes gènes, je suis profondément attachée à la liberté d'aller et venir. C'est aussi parce que le mot migration et toutes ces variantes linguistiques, migrant, immigration, et migration aujourd'hui fortement connotées négativement, et évoquent pour moi les épopées tragiques des jeunes gens venus d'Afrique s'échouer sur les plages de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Bien entendu, il existe tellement de formes de migration, surtout ici. En partant de ma terre, le Sénégal, il y a toutes sortes, tout type de migration. Il y a la migration des jeunes qui partent de la campagne, qui vont vers les villes. Je pense à Aminata Sophie Gueye, qui est une écrivaine sénégalaise, qui l'a raconté à travers l'épopée tragique de deux jeunes filles. Je pense aux migrations des Sénégalais vers les autres pays d'Afrique, très très nombreux. Je pense aux migrations des Libanais qui sont arrivés au Sénégal. C'est autant de récits. Mais mon propos aujourd'hui s'attachera vraiment à cette migration du sud vers le nord, vers des Africains, des Sénégalais en particulier, vers l'Europe. C'est parce que ça demeure un choc pour nous au Sénégal. Il ne se passe pas un jour sans qu'une pirogue se renverse sur les côtes du Sénégal. C'est un vrai traumatisme collectif. Et le mot migration concerne à peu près les trois quarts de l'humanité. Et c'est un mot qui est devenu une sorte de charnier où s'empilent des cadavres d'hommes et de femmes qui ont quitté leur maison avec des rêves plein la tête. Et par leur mort, leur récit s'éteigne. Parce que la plupart meurent avant même d'être arrivés. C'est donc l'occasion pour moi de faire entendre un petit peu leur voix à travers la littérature et d'un peu donner corps à leur humanité. C'est aussi tenter de rétablir, de réparer un oubli, celui que les populations du monde entier résultent des migrations étalées sur des siècles. Enfin que les Africains, je pense qu'il n'y a pas un continent qui ne soit formé par des migrations. Il y a, dans un entretien qu'il donnait au Monde, le philosophe Souleymane Bachir Gueye rappelait une pensée de Senghor qui disait que l'orgueil d'être différent ne doit pas empêcher le bonheur d'être ensemble. Et pour moi, vivre, c'est migrer. Je ne peux imaginer une humanité statique et sans mobilité. Donc, je vais commencer par vous lire un petit texte que j'ai produit sur Facebook. Je l'avais écrit comme ça, de manière assez spontanée, assez éruptive, comme je le fais souvent. Et j'ai imaginé la lettre d'un futur migrant à sa mère. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour comprendre les motivations et les rêves de ceux qui partent. Je l'ai intitulé « Demna et Demoiselle aussi ». Je laisse mon grand frère Malik vous traduire ce titre en français. « Yai boy, demain, quand l'ombre de la nuit aura fermé les paupières du jour, je partirai. Pardon Yai, mais je ne peux plus rester ici. La pirogue m'attend et elle ne partira pas sans moi. Cette fois, c'est décidé, je pars. Rien ne peut plus me retenir désormais, ni ton espoir en moi, ni les menaces de mon père, ni les attentes de mes frères et sœurs. Non, il n'y a plus rien ne me retient pas. Ni mon amour pour mon terroir, ni le thé d'amitié quotidien partagé, ni tes mains sur mon front, ni le chant mélodieux de ton chapelet et de ton zikre. Cette fois, je veux tout oublier. En partant, je ne veux pas croiser ton regard, ni celui de mes amis, ni celui de mes frères et sœurs, ni celui de mon père. Ni celui, je mettrai mes habits les plus sombres, je m'agenouillerai longuement face à la lune, puis je me fondrai dans la dernière opacité de la nuit et je partirai. Vois-tu, Yai, j'ai travaillé. J'ai tant travaillé pour obtenir ces diplômes inutiles. Tu as tant sacrifié pour me sauver. Et j'ai encore reçu un non à ma dernière demande. Pourquoi moi? Certains de mes amis ont été embauchés, ce sont ceux qui en avaient le moins besoin et qui étaient les moins diplômés. Fils à papa nanti, costumé, cravaté, ils ont voiture et maison, et moi, efforts réduits en cendres, je n'ai rien. Tu as vendu ton or pour moi, Yai, puis tu as vendu des légumes devant la maison pour que j'y arrive. Rien. Père a fait ce qu'il a pu, rien. On m'a dit de militer dans le parti au pouvoir, que ça pouvait aider, mais je ne suis pas convaincue par ces messieurs corrompus au discours mielleux. Je n'ai pas milité car je refuse de perdre ma dignité. On m'a raconté le calvaire des migrants en Europe. J'ai vu les cadavres flotter sur la Méditerranée. J'ai écouté les témoignages des esclaves en Libye. J'ai peur, Yael, mais je partirai. J'ai lu que l'Europe ne voulait pas de nous, que les migrants étaient parqués dans des camps, puis renvoyés chez eux, que les lois contre l'immigration avaient été inhumainement durcies, que les Européens ne nous voyaient pas comme des humains, mais comme des rapaces venus leur ôter le pain de la bouche. Mais demain, Yael, je partirai. J'ai lu que très peu s'en sortaient en Europe, mais mon ami Moussa, lui, a réussi. Il envoie de l'argent à sa famille et ses parents sont respectés dans le quartier. Alors pourquoi pas moi? Vois-tu, on ne peut rien pour moi ici, on ne veut pas de moi ici et je ne veux pas voler. Je ne veux pas tuer, je ne veux pas devenir un délinquant. J'ai emprunté l'argent de ta tontine pour payer le passeur. Je te rembourserai, Yael, je te le jure, je te rembourserai avec les intérêts. J'ai fini mes études depuis 4 ans et je suis toujours un chômeur. Je commence à perdre la foi, Yael, à cause de cette interminable attente. Je sais que tu vas souffrir. Tu n'as plus de larmes et ta santé chancelle. Je t'enverrai de l'argent, de l'or, du tissu pour que tu relèves la tête. Papa te reproche de trop me prouver. Il commence à dire que je suis un bon à rien. Je lui prouverai qu'il a tort et que tu as enfanté un bon garçon. Je veux que tu sois enfin heureuse et que tu reçoives le salaire de la maternité. Prie pour moi, Yai Boy, c'est dans la force de tes prières que je trouverai celle de ne pas me retourner. Voilà, c'est la fin de cette lettre, donc fictive, que j'ai imaginée. J'ai tenu donc à travers cette lettre à donner une identité à l'un des cadavres anonymes flottant dans les eaux de la Méditerranée ou de l'Atlantique. En l'écrivant, j'ai imaginé les yeux rougis des mers, le dernier espoir englouti dans les eaux, le désespoir comme avenir, une dette venant rejoindre la longue liste des dettes qui ne seront jamais remboursées. J'ai entendu la voix crépusculaire de Victor Hugo dans les rayons et les ombres. Où sont-ils les marins sombrés dans les nuits noires, au flot, que vous savez de lugubres histoires, flot profond redouté des mers à genoux. Oh, que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve, sont morts en attendant tous les jours sur la grève, ceux qui ne sont pas revenus. Si Hugo, dans son poème, parle de marins morts au travail, dans le drame de l'émigration issue des côtes d'Afrique, en revanche, il s'agit de jeunes gens, filles et garçons, qui rêvent de devenir des héros en s'extirpant d'un monde désenchanté par la violence, la corruption et la misère. Ils fuient dans un mouvement de renoncement à tout, sauf à leur rêve. Il y a quelque chose d'absurde dans ce slogan à la mode,
Barça ou le Barça, Barcelone ou la mort. Autant quelques petites vérités implacables surgissent dans les motivations de ces candidats à l'Europe. Dans une série d'entretiens réalisés au Sénégal par la chercheuse Nelly Robin, des jeunes Sénégalais, l'enquête révèle que des pressions sociales et les vulnérabilités économiques sont certes des motivations importantes, mais elles ne sont pas les seules. Nombre de ces jeunes évoquent la malgouvernance, la frustration devant l'inégalité des chances, la perte de confiance, la corruption des dirigeants comme cause de leur départ. Ils voient dans l'immigration une possibilité de secouer leurs immobilités, une chance de reconnaissance face aux pairs par l'envoi de ressources à leur famille. Ils partent à la rencontre de l'Eldorado, persuadés de réussir et de quitter l'invisibilisation d'une société dure envers les vulnérables. D'ailleurs, toutes les migrations ne sont pas des échappées clandestines. Ce ne sont pas des échappées solitaires clandestines. Certaines sont de véritables projets, construits par des familles, par le biais de comptines, d'emprunts, qu'ils s'engagent à rembourser au bout de quelques années. L'entourage familial est consulté et passe un contrat moral avec le candidat qui s'engage à rembourser quelle que soit l'issue du voyage. La dette échoit souvent aux mères, même surtout en cas d'issue fatale. Les femmes, d'ailleurs, sont très impliquées dans ce phénomène de l'émigration. Et c'est, à mon avis, c'est pas tout Guillaume qui en parle le mieux. Dans son œuvre, Celles qui attendent, les femmes sont des sentinelles. Fatou Diom donne à entendre les voix des femmes, mères, épouses d'émigrés, dont le quotidien est fait d'attentes, de rêves gelés, d'espoirs flétris par l'angoisse permanente d'un deuil hypothétique. Je cite Fatou Diom. Les coups de fil s'étaient largement espacés. Les femmes accusèrent le coup, mais on finit toujours par s'inventer une manière de faire face à l'absence. Au début, on compte les jours, puis les semaines, enfin les mois. Vient inévitablement le moment où l'on se résout à admettre que le décompte se fera en années, alors qu'on commence à ne plus compter du tout. Si l'oubli ne guérit pas la plaie, il permet au moins de ne pas la gratter en permanence. N'en déplaise aux voyageurs, ceux qui restent sont obligés de les tuer symboliquement pour survivre à l'abandon. Partir, c'est mourir au présent de ceux qui demeurent. Mourir aux siens en partant, mais mourir également derrière les grilles de Ceuta et Melilla, porte close d'une Europe barricadée de peur face aux envahisseurs des temps modernes. Fatou Diom pose la question de l'accueil des migrants en Europe, des associations qui accourent dans un élan de générosité, des lois contre l'immigration changeante qui traquent les migrants devenus gibiers. Fatou Diom fustige la mauvaise foi des politiques qui, selon elle, légitiment tous les apports. Elle va plus loin en accusant l'Occident et l'aide humanitaire d'être l'opium de la jeunesse africaine. Elle dit « Les pays européens ont intérêt à maintenir l'Afrique tout juste en état de fonctionnement, assez pour rendre disponibles ses matières premières et ses jeunes forcenés de l'immigration, si nécessaire à la survie d'un continent vieillissant à la démographie déclinante. » Dans son roman « Coup de gueule », Fatou Diom n'épargne pas les fléaux propres à l'Afrique. L'analphabétisme, le poids des traditions, les pièges de l'immigration, qui enserrent aussi bien ceux qui partent que ceux qui demeurent. Surtout, il faut garder la douleur secrète, en fanfaronnant même, jusqu'à ce qu'elle finisse par nous tuer. Ainsi, l'immigration est une tragédie. Et comme toutes les tragédies, l'issue est fatale et tout se termine dans le vacarme d'un silence peuplé de fantômes errants. Des fantômes dont les artistes ont, surtout dans les films et dans certains romans, les artistes en ont fait la matière de leurs œuvres. Ainsi, dans le film de Mati Diop, Atlantique, qui a reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes 2019, les migrants morts en mer investissent les corps de leurs femmes pour demander réparation aux patrons vautours dont la cupidité les a poussés à l'exil et à l'amour. Une façon comme une autre de retenir une voix aux disparus. Fatou Diom utilise également cette fibre mystique dans son roman « Les veilleurs de Sangomar », dans le prologue duquel elle imagine le cercle des migrants disparus. Je la cite. « Avec ou sans lune, ils veillent, regroupés autour d'un feu de bois au centre de l'île de Sangomar. En attendant de poursuivre leur voyage, ils traversent la nuit du salon et répondent à ceux qui les réclament sur l'autre rive. » À terre, certains essaient encore de comprendre par quelle voie du destin ils s'étaient croisés avant de se retrouver piégés ensemble là-bas, dans un repli de l'Atlantique. Beaucoup les croient hors d'atteinte, mais ils ne sont pas si loin. On peut même les entendre discuter depuis leur escale. Ce mystère de l'ailleurs finit par alimenter les imaginaires des vivants d'une foule de personnages pittoresques. Dans Silence du cœur de l'écrivain sénégalais Mohamed Bougassar, lauréat du prix Goncourt en 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes, les personnages atypiques forment un cœur aussi disparate qu'attachant, dans lequel les migrants nommés des ragazzi débarquent en Sicile après avoir traversé l'Afrique et avec l'espoir d'acquérir une dignité. Ils vont faire face aux Siciliens farouchement opposés à ces envahisseurs et les deux camps vont s'organiser dans un face-à-face tragique qui n'est pas sans rappeler les grandes épopées de l'Antiquité. Je pense à la guerre de Troie, je pense aux Troyens contre les Grecs et bien d'autres, et d'autres épopées. Mougar, donc, réussit dans ce roman à représenter une parole politique autant que poétique sur le drame des migrations modernes. La parole dans un ballet migratoire d'un camp à l'autre, donne corps aux douleurs et aux désillusions, en nommant les migrants et en leur donnant ainsi une existence. Ils font face aux incompréhensions, aux angoisses, à l'hostilité de leurs hôtes, dans un étrange cœur où les langues, le bambara, le serer et l'italien fusionnent avant que ce soit le tour des imaginaires. Le grand mérite, à mon sens, dans ce roman, a été pour Bougassar de représenter un cœur polyphonique à travers le récit enchâssé de Yoboy Sen, médiateur et traducteur, qui montre qu'une autre fin est possible. Serait-ce une manière de montrer que les migrations, loin d'être le problème assourdissant que nous connaissons aujourd'hui, pourrait rapprocher les peuples, et que l'écrivain pourrait être le traducteur, cœur à cœur, langue à langue, pour les peuples. Utopique, me direz-vous. Cessez donc de rêver. Alors, dans un entretien avec Elara Berthaud, publié dans la revue Multitude, Mougar rappelle ses propos de Marcel Proust. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Propos repris par Julia Kristeva dans Le temps sensible, Proust et l'expérience littéraire. Elle écrit que toute écriture est une traduction. Dans le même entretien, Mougar déclare de manière lumineuse que l'écriture pourrait rendre compte du moment de la rencontre, entre l'énergie négative de l'immobilité et celle positive du voyageur, en semencé d'espoir. Car, précise-t-il, quoi qu'on en dise, il y a quelque chose d'héroïque dans ces odyssées de migrants. Un jeune auteur sénégalais, Halil Diallo, sublime cette idée. Il reprend cette idée dans son roman « L'Odyssée des oubliés ». Tout au long du cauchemar de la traversée, le héros du roman s'embrouillane, dépasse ses peurs bien humaines, chaleur et froid extrêmes, bête sauvage, hantise de croiser les marchands d'esclaves par une pensée. Notre seule force, dit-il, c'est la persévérance et l'acceptation face aux épreuves. Une vertu que les clandestins appellent le mounial. Bien que la seule alternative qu'ils s'imposent, l'opulence ou la mort, soit un peu naïve, force est bien de reconnaître que ces existences de migrants réduites au silence, à la colère ou à la vindicte par les médias et les États impuissants sont bien des héroïsmes des temps modernes, au sens premier du mot, courage exceptionnel, grandeur d'âme hors du commun. L'auteur hongrois Pane Israti dit dans son œuvre « Pour avoir aimé la terre », c'est par la force de l'illusion que les hommes deviennent des héros. Halil Diallo explique aussi dans un entretien que l'écriture de son roman est partie du récit du frère d'un garçon mort dans une traversée. Brusquement, il n'était plus anonyme. Par les récits, donc, l'anonymat est levé. Et au-delà des migrations, c'est l'humanité, à mon sens, qui joue son bateau. Partir de la diversité, voire de la fragmentation du monde, pour parvenir à ce que jadis Senghor et Césaire appelaient la civilisation de l'universel. Comme le rappelle le philosophe Souleymane Bachir Gagne, toujours dans un article intitulé « Pour un universel vraiment universel », il disait que les questions africaines sont devenues des questions planétaires. On pourrait même ajouter, enfin j'ajoute, que dans un monde globalisé, plus aucune question ne saurait demeurer propre à un lieu géographique. Le monde est un et solidaire. Le poète comique latin Terence l'avait subodoré dans un vers tiré de sa pièce Leoton Timorumenos, Omosum, Omanini, Lame, Alien, Kutu. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Aujourd'hui, la mémoire nous rappelle que les frontières sont le produit d'événements tragiques de l'histoire. Mais le cœur et la raison nous dictent le dépassement. Il ne pourrait s'agir d'appeler à une amnestie collective brutale, plutôt une invitation au goût de l'autre, pour pasticher le titre de la sociologue Elena Lassida, qui le titre étant « Le goût de l'autre, la crise, une chance pour réinventer du lien ». S'intéresser aux migrants, c'est s'intéresser à une part de l'humanité aussi digne que toutes ces autres parts, une part qui souffre, qui aime, qui vit et se transforme, au même titre que toutes les autres parts. À travers les récits des écrivains, qu'ils soient ou pas les produits des migrations, la littérature demeure le territoire de la liberté d'être. Denis Laferrière l'exprime dans un journal, il dit « Je veux écouter la chanson du monde et je refuse les ghettos. » Alors, je me dis « Place aux ponts et aux liens, et au diable les assignations et les complexes, ensemble permettre à la littérature de corriger un tant soit peu l'histoire et la géographie. » Voilà. Merci.
Merci.
Merci de m'avoir.
Excusez-moi.
Non, c'est le câble.
Merci Fatimata de cette très 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 belle et très riche contribution. Je crois qu'elle est tout à fait dans l'esprit de ce que nous souhaitons faire ici, c'est-à-dire à la fois réfléchir sur cette question majeure et en même temps réfléchir sans oublier avec au cœur de notre préoccupation la dimension humaine. Et il y a tout cela dans votre contribution. Alors, c'est un début. Donc, nous allons au fur avec le temps qui va passer, on aura de plus en plus de contributions. Et je crois que ce serait bien que cette contribution, déjà, si vous avez ce document écrit que vous avez, puisque vous avez écrit cette contribution, que nous puissions déjà la récupérer pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir l'introduire comme texte dans nos éléments de débat. Merci beaucoup, Fatimata. Merci de ce travail important. Et je vais laisser Malik conclure cette soirée qui est déjà.
Si tu peux t'approcher.
Donc, voilà, approche-toi. Oui. Voilà. Et alors
je parle.
D'accord.
Ah merde. Je tire trop. On a perdu. Elle est toujours là ? Ah, mais non, mais c'est le Zoom qui est.
Ah non, c'est bon. Ça va.
Non, c'est bon.
Non.
On a perdu le Zoom ?
Non, on a. Quand même.
Non, on n'a pas perdu le Zoom. Il faut qu'on re-rentre dans l'appareil.
Bon, vas-y, Malik, c'est là.
Bon.
Elle a peut-être fermé, oui.
Non, je pense pas. Non, c'est nous qui avons eu un problème.
C'est vous qui avez
Attends.
Ou après,
Vas-y, commence.
Alors moi, je dis que parler de dire migration suppose la comprendre et réfléchir. Et sur ça, c'est sur cela que j'ai fait un texte pour le colloque. Je parle d'abord de l'accélération des activités, des aspirations sociales et la transformation culturelle. Le problématique, ce qui m'intéresse, c'est d'abord les problématiques de l'émigration. Comment expliquer une telle déferlante migratoire qui, dit-on, menace le futur de l'Occident? Est-ce une ressurgence d'un passé vivant, empreint d'oppression coloniale ou l'exercice de l'horreur et de la tyrannie des nouveaux pouvoirs dirigeants, ou encore simplement le désir d'un ailleurs d'espoir qui, depuis les rives de l'Atlantique jusqu'en Méditerranée, charrie des vagues migratoires vers l'Occident. Ces déplacements de masse viennent-ils en Europe déranger l'équilibre économique, les marchés financiers et accroître les peurs et les rejets sous toutes ses formes? Quel est l'essence de la mondialisation quand elle s'éloigne de l'objectif universel de brassage humain pour ne laisser place qu'à l'intolérance corrigée et qu'à l'arrogance de la matérialité du monde? De ce constat, la mondialisation n'a-t-elle pas une réputation équivoque? A-t-on les moyens de freiner la migration des oiseaux qui vivifient la planète? Les pays de provenance ont-ils une politique et les moyens adéquats de développement pour arrêter l'exode de leur population? Dans le même ordre d'idée, pourquoi des passeurs de manière résolue continuent-ils à alimenter avec des degrés d'intensité divers cette besogne? Que faire pour réguler le destin de l'inégalité? Sans tenter de répondre à toutes ces questions, je vais prêter l'oreille à Placide Tempels, un prêtre franciscain belge, missionnaire en Afrique centrale. Il vécut en période coloniale au Congo, chez les Pygmées, où il enrichit sa pensée philosophique africaine et écrit un livre intitulé « Philosophie bantou ». J'en retiens une citation pour nourrir et ma perception et ma réflexion. Assis-toi au pied d'un arbre et avec le temps, tu verras l'univers défiler devant toi. La transformation des conditions humaines à l'arrivée des machines, de l'industrialisation en Afrique de l'Ouest a accentué l'émigration et les échanges commerciaux entre les Djoulas, ces marchands itinérants originaires du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée, encore du Burkina Faso, qui, au-delà de la diversité de leur langue et pour construire leur avenir, ils se référaient au proverbe africain « Quand un bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. » Ainsi, ils étaient parvenus à créer un univers de brassage humain où chacun a ensemencé une part de son entité enracinée pour parler une langue commune, conduisant à assouvir leur manque et à réussir leur quête de bien-être, de fortune, de prospérité, d'alliance, de famille et d'entente cordiale. Mais aujourd'hui, l'influence des médias, les nouvelles technologies et les techniques ont généré une accumulation de besoins, d'envies et de désirs des populations. Cela a accéléré leurs aspirations et a conditionné leur choix d'aller émigrer vers l'ailleurs lointain. Par cette émigration à outrance, et souvent au dénouement dramatique, de jeunes femmes, de jeunes hommes et des enfants prennent des pirogues en traversant les mers au péril de leur vie, à la recherche d'une vie meilleure, à la quête d'acquisition de nouvelles connaissances, de moyens financiers, de savoir-faire, d'autonomie et de liberté. Par contre, l'Occident prospère et innovant n'accueille seulement que la crème des émigrés des pays sous-développés et rejette les indésirables. Mais la guerre en Ukraine a ouvert les yeux au monde entier et a montré que l'autre visage de l'Occident par rapport au type et à l'identité de l'immigrant qui les ressemble. L'appel du 18 juin du général de Gaulle, les 30 Glorieuses, n'avait pas regardé la ressemblance, mais avait décidé résolument de s'appuyer sur le courage, l'aptitude et la détermination de tous les émigrés pour défendre l'honneur de la patrie. Mais aujourd'hui, face à la mondialisation et au déséquilibre de l'économie de l'Occident, l'immigré devient un bouc émissaire du déséquilibre social. Il est perçu comme source de troubles économiques et même de décadence du système européen. Roger Garaudy, le philosophe, n'avait-il pas raison d'anticiper sur l'attitude de l'Occident qui s'était cru autorisé au XXe siècle à situer et à juger les autres en posant la question que voici: l'Occident a-t-il confisqué l'universel? un nouveau rapport au monde de l'instantanéité impose une accélération de toutes les activités sociales pour s'inscrire dans la dynamique d'une transformation culturelle dont la seule issue est d'aller vers l'ailleurs pour gagner beaucoup d'argent ou de tout apprendre en un laps de temps ou bien amasser des fortunes pour dominer économiquement et financièrement. Comment les pays de provenance des candidats à l'immigration pourraient-ils infléchir les aspirations légitimes de leur société? Pour juguler ces tentations risquées pour rejoindre l'ailleurs, chaque État devrait instituer un système éducatif formant ces jeunes dans des secteurs productifs, développer des structures locales pour la transformation des produits agricoles, renforcer l'irrigation des terres et des industries, sanctionner et interdire toutes les filières clandestines vouées aux candidats à l'immigration. Bien qu'il y ait des drames lors des traversées de l'océan, l'épaisseur des douleurs ne freinerait guère cette volonté naturelle d'aller vers l'ailleurs où le besoin t'appelle. De ce point de vue, il est un fait indéniable d'intégrer à vie que les déplacements humains ne cesseront que lorsque la vie humaine cessera.
Voilà. Merci Mali. Voilà, merci. Donc, ainsi s'achève cette première rencontre sur ce thème des migrations. Vous l'avez compris, je crois que c'est tout à fait illustratif de ce qu'on voulait faire cette soirée. C'est-à-dire qu'on est à la fois, du côté de l'esprit et du côté du cœur. C'est-à-dire qu'on veut à la fois ne pas oublier la réflexion, parce qu'elle est indispensable, parce qu'il faut qu'elle prenne. Il faut absolument avoir cette dimension à apporter dans les débats qui sont en général trop caricaturaux et trop pauvres. Et en même temps, il faut ne pas oublier que la matière dont nous parlons est d'abord une matière humaine, que c'est cette matière-là qu'il faut traiter, sur laquelle nous travaillons. Voilà. Il est tard, donc on va peut-être discuter autour d'un verre, si vous voulez bien. Hein, je crois que ce sera mieux que discuter ici. Merci.
Je voudrais dire un truc par rapport à la question de la définition du migrant. C'est pour moi, oui. Il y a l'immigrant, celui qui émigre, oui. Il y a le migrant qui est en chemin.
Et vous savez, moi, il y a une chose qui est importante, c'est quand on regarde comment les mots migrent eux-mêmes, en Europe, on a commencé par parler d'émigration. On a eu des émigrants. Les Irlandais, les Italiens qui partaient en Amérique, Et attends, qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis après, on a parlé d'immigration, parce qu'on a eu des immigrés. Voilà. Et attends, laisse-moi terminer, après je te laisse la parole.
Non, mais c'est parce que j'avais commencé à parler, puis vous m'avez coupé.
Ah non, excusez-moi.
Permettez, oui. Parce que je disais que pour moi, il y a l'immigrant, celui qui immigre, et qui suit le courant normal de les papiers officiels, les procédures, et lui c'est un immigrant, et oui. il y a l'exilé qui lui est forcé de partir, qui prend des chemins différents, comme ma famille, mes parents, et moi j'ai subi ça puisque j'étais enfant, et il y a aussi celui qu'on appelle le migrant, qui lui pratiquement un sans-papier qui doit fuir, qui doit partir et qui doit prendre des avenues, des façons différentes pour retrouver une terre, la terre promise ou celle qu'il s'imagine, où est-ce qu'il peut avoir un avenir pour lui, sa famille, sa femme, ses enfants. Et ça pour moi c'est quand même différent. Cette perception, et peut-être parce que moi-même je suis fille d'exilée, et je vois les choses un peu autrement, et j'étais pas tout à fait d'accord non plus avec la dame, parce qu'il y a des gens qui sont des migrants mais qui ne subissent pas nécessairement les souffrances et les tortures dont on a parlé selon d'où ils proviennent, et ça va pas toujours avec leur nom de famille ou la couleur de leur peau. C'est juste ça.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Écoutez, nous serons ravis d'avoir votre contribution. Le mouvement nous l'a donné. Ce sera très, très intéressant.
Nora Atala, Québec.
Écrivez-nous votre contribution. Nous serons contents et puis nous serons contents d'en parler avec vous après.
Excusez-moi, là, je voulais juste finir ce que j'avais commencé.
Attendez, c'est important que vous puissiez contribuer, que vous puissiez donner des contributions, même écrites. Non, simplement pour une précision. Là, c'était un cas particulier. On a voulu parler. Il était important qu'on parle de ça parce que c'était un cas tout à fait symbolique des drames qui sont vécus et de ces drames auxquels nous ne pouvons pas rester étrangers, nous. C'est-à-dire que ça nous questionne. C'est-à-dire que comment nous, qui sommes des écrivains en principe engagés dans une action humaniste, comment est-ce que nous pouvons rester à côté de drames aussi importants, aussi tragiques que cela? Mais c'est une partie, je concède que c'est seulement une partie de la question. Nous sommes ensuite passés à autre chose. Oui. Et nous attendons votre contribution.
Tout à fait épouvantable, parce que tout ce que j'ai entendu, là, franchement, et moi, pour avoir vécu 2 ans au Zaïre Congo, le Zaïre de Mobutu, et aussi pour avoir assisté à des conférences sur tout ce qui se passe dans le Nord qui vaut depuis plus de 20 ans. Et ce qu'il disait, là, que quand les femmes sont violées, où est-ce qu'il y a tout un régiment qui leur passe dessus, du bébé jusqu'à la grand-mère, et qui ensuite, quand les hommes, au lieu de prendre les armes contre les leurs, en fait, qui sont là et qui torturent la population locale, après qu'ils font leur méfait, les hommes reviennent au village et ne veulent plus de leurs femmes. Et ça, c'est exactement ce que disait la dame, qui se deviennent comme des proscrits. Mais des fois, moi, ce qui me sidère et qui me révolte la plupart du temps, c'est de voir ce qu'une population, ceux qui font à leur propre peuple, parce que tous ces gens, ces passeurs locaux, mais ils sont des mêmes origines. Ça me fait penser à tout ce qui... les comptoirs, par exemple, des esclavagistes qui étaient au Congo, qui étaient tenus par des Congolais.
Mais il y a l'histoire de l'Afrique du Sud, de Chaka Zulu. En Afrique du Sud, il y a une migration à l'intérieur même de l'Afrique du Sud. Tout le monde n'est pas Zulu. Ils ont migré parce qu'ils avaient peur de la force militaire. Ça aussi,
Non, mais je veux juste la distinction. Je te remercie, cher Philippe, d'avoir organisé cette rencontre passionnante. Je souscris à la définition que vous avez faite du migrant, de l'immigrant. J'ai vécu l'immigration, mais de façon légale depuis 130 ans, si je compte mon grand-père. Mais c'était dans une logique beaucoup plus pacifiée, même si c'était difficile. Et le cas majeur qui a été révélé par cette cinéaste est vraiment incroyable. Et vous l'avez évoqué avec justesse tout à l'heure, à travers ces silences. Et ça, il faut faire quelque chose. Et moi, je vais m'y engager à mon niveau, puisque, comme tu sais, j'anime des associations à cet égard. Bon.
Mais moi, je dis que le vocabulaire des émotions, des fois, elle aveugle les raisons. C'est pourquoi je dis que il faut un peu la réflexion, parce que les gens meurent, on souffre, on a de mal, il faut privilégier la réflexion. Mais pourquoi?
Je suis bien d'accord.
Il faut un équilibre entre les deux. Il faut un équilibre entre les deux. Et tu ne peux pas dire privilégier la réflexion. C'est un équilibre qu'il faut garder entre les deux.
Pourquoi je dis ça? Il y a quelques années, je m'étais opposé aux peines parce qu'on avait demandé de défendre un garçon qui habitait la Guinée. Il dit que son pays était en guerre. J'ai dit non, moi, je ne participe pas, je ne vote pas, je ne suis pas d'accord. Parce que... des fois, les gens viennent comme ça, ils viennent. Quand tu es un immigré, moi je dis au Sénégal, je viens du Sénégal il y a 15 jours, du Sénégal. Mais quelqu'un qui est candidat pour l'immigration doit au minimum avoir un métier. Le métier est fondamental. être instruit. Deux, l'instruction, et l'instruction c'est fondamental chez l'être humain.
Oui, mais...
Oui, non, ça c'est pas, voilà. Voilà. Juste un mot.
On va peut-être en rester là, on va aller boire un verre. Allez. Désolé, Fatimata, nous ne pourrons pas boire un verre ensemble.
Je voulais juste préciser, parce qu'on en est fait aux statistiques, parce que j'avais quand même le sentiment d'avoir été un peu bousculé dans mes interventions. Le taux d'accord de la cohorte de l'OFPRA est bien de. Le taux d'accord total est bien de 44% sur le mandat de 2018. Donc, il y a un moment, si vous voulez, moi je pense, je suis d'accord avec monsieur, c'est-à-dire que l'émotion, moi je suis à fond pour, hein, moi je fais de la poésie aussi, vraiment, c'est très. Il faut être très humain. Mais il faut aussi.
Il faut les deux.
Comment dire? Il faut les deux. C'est-à-dire que c'est nécessaire d'avoir cet équilibre, surtout dans le monde où nous sommes avec. Les débats sont justement extrêmement passionnels. Et je pense qu'on a intérêt à descendre d'un cran le côté passionnel. Parce que ce n'est pas ça qui va nous servir, qui va servir à l'humanité de ces gens qu'on veut servir. C'est mon point de vue. Hein. Alors après, je sens que c'était ça.
Nous sommes tout à fait d'accord. Et encore une fois, j'avais demandé à ce secrétaire de l'amiral de venir. Parce que cette enquête, c'est le cas typique.
Mais cette enquête est magnifique, mais simplement, ce n'était pas le sujet que vous avez mis dans le titre. Donc moi, j'ai
vu le du mot. Non, non, c'était une des quatre interventions.
Mais je sais bien, mais le titre général, c'était par mon élection.
Oui, mais
je
dis...
C'était
une des quatre interventions du groupe. Mais ceci étant, nous serons contents de continuer à travailler avec vous.
Ben écoutez, je viens d'arriver au Pen Club, donc je vous dis que j'espère que je ne suis pas dehors déjà.
Mais je serai ravie si un livre s'exprime, si on ne s'exprime pas tous au Pen Club, où s'exprimeront-nous?
Bah oui, mais je suis d'accord. Je me suis dit que c'était le lieu où
vous êtes contribution, vous êtes
pas. Ah ben je peux, parce que j'arrête pas de travailler sur ces sujets. Par contre, je dois m'en aller pour le verre, je suis désolée, j'ai un rendez-vous Zoom chez moi. Donc,
j'aurais voulu juste ajouter une petite chose. Et c'est pas pour ouvrir maintenant un long débat, parce que ça pourrait amener un long débat. Mais il me semble qu'il faudrait essayer aussi de mettre cette question de la migration, comme ça a été évoqué, et avec son côté rationnel et son côté émotion et artistique même engagé. Il me semble qu'il faut se donner le temps aussi, c'est un temps long peut-être, de réfléchir quels sont les enjeux pour lesquels il est devenu si difficile de penser à une possible intégration de ces quantités de gens qu'on appelle les migrants dans le XXIe siècle. Il me semble que si on n'arrive pas à essayer de voir ce qu'il est en jeu, comme des rapports de pouvoir, des rapports de force, des questions de enjeux profonds, idéologiques, enfin, c'est tout un énorme débat. Je suis sociologue et j'écris de la poésie et j'ai traduit. Mais bon, il me semble que pour essayer d'arriver à quelque chose dans des endroits qui ont la pensée et les lettres et l'humanisme pour matière, qu'il faudrait essayer de décrocher.
Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Je vous rappelle les règles du jeu.
Oui.
Nous sommes là pour discuter ensemble et pour que chacun amène des idées à notre réflexion générale.
Peux-tu dire d'un seul mot, qu'est-ce que tu attends de est-ce qu'il faut donner un texte? Qu'est-ce que tu veux?
Ce qu'on attend pour l'instant,
oui, pour l'instant
c'est que chacun, voilà, votre contribution qui est là, quel est le type de sujet qui nous paraît important à traiter? De quoi pourrait-on parler? Quels sont les sujets à mettre sur la table et sur lesquels on peut travailler ensemble?
Moi, j'ai quelques propositions à faire.
Parce on va faire circuler.
Par exemple, la question, c'est que cette question-là, c'est un verse d'histoire d'humanité entre nomades et sédentaires, et mythes comme Abel et Caïn, le Cérémus le pose. J'ai dit, il faut penser dans le temps long.
Il faut penser.
Et donc,
il faut penser dans le temps long. Il faut penser dans le temps.
Comme vous le proposez, effectivement. Voilà.
On va parler. On attend des contributions.
Merci.
On proposera aussi un certain nombre de thèmes sur lesquels on travaille ensemble. En tout cas, merci. Merci d'avoir été présent pour cette première rencontre. Ce n'est qu'un début. Donc, la suite sera riche. Voilà. Merci beaucoup, Fatimata. Merci. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Elle ne va pas. Allez, au revoir.
Oui.
Ciao.